Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. Et oui, ça y est, podcast 149, la deuxième partie de notre grand bilan de l'E3. La semaine dernière, mes aïeux, nous avions parlé des grandes tendances, des différentes conférences. Et bien aujourd'hui, nous vous l'avions promis, nous allons revenir sur les jeux, car l'E3, c'est avant tout cela aussi. Il y en avait plus de 1 000 000 qui étaient présentés sur le show floor. Et bien nous en avons retenu, dans cette grande liste, à peu près une petite centaine. Vous aurez compris que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux dans le lot des incroyables, des moins bons et des tout pourris. Donc on va refaire un petit peu le match de cette E3, partie jeu, avec Mimic. Ça va bien, Mimic, t'étais avec nous à l'E3, à Los Angeles, et t'en as chié, il faut bien le dire.
Effectivement, ouais, d'ailleurs pour le dernier podcast, je dormais, tu vois, ouais. donc du coup, effectivement, j'ai un peu souffert. Mais il y avait des bons jeux quand même, il y avait très bons.
Ah ben clairement. Allez, on va revenir aussi avec Raon, qui a vu aussi beaucoup de jeux en behind closed door, comme on dit là-bas.
Voilà, oui, la plupart n'étaient pas jouables, donc ça va aller très vite. On va parler vite fait de ce qu'on a pu en voir, mais en général, quand il y a des présentations dites behind closed doors comme ça, effectivement, c'est les développeurs qui présentent les jeux et non pas nous qui y jouions. Donc ça va permettre de gagner un peu de temps.
Mais néanmoins, voir des petites choses, oui, beaucoup plus que sur le show floor. Et puis notre duo de l'impossible, celui qui est resté à Paris mais qui néanmoins n'a pas compté ses heures, Traz et Julo, ça va les gars?
Ouais, ça va.
Super.
Et ils sont devenus une seule et même personne.
Alors attention aux grimaces de Traz, à tout moment elles peuvent intervenir dans ce podcast. Voilà, allez, c'est parti. On a découpé en fait ce podcast en plusieurs segments, histoire que ce soit le plus clair possible pour vous. Les grands genres de jeux sont représentés, on les a regroupés aussi, histoire qu'il n'y ait pas 40 000 genres. Donc il y a action, aventure, les shooters que vous allez voir sont très représentés, la plateforme qui est bien revenue, hein, avec des titres de qualité, la course, la baston, le sport, les inclassables, la stratégie et les grands absents, car il y en avait aussi des jeux qu'on espérait et qu'on attendait et qui ont manqué le 3 pour probablement avoir plus de place à la Gamescom ou au TGS. On va voir ça. Allez, c'est parti, podcast 149, le bilan de le 3 partie 2 sur les jeux. On commence avec l'action aventure et Raon, je me tourne vers toi. Le jeu, probablement l'un de tes jeux coup de cœur du salon, c'est Deus Ex Human Revolution, c'est chez Square Enix.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en as pensé puisque t'as pu le voir?
Alors j'en attendais beaucoup et déjà, je pense que la chose principale à dire, c'est que je n'ai pas été particulièrement déçu. Alors que quand on place des grosses attentes sur ce genre de titre en général, on est toujours un peu déçu. Là, ça n'a pas été le cas. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, il en reste 8 mois de développement pour gommer certains petits trucs.
Quelles sont tes déceptions pour l'instant et quels sont tes points de satisfaction?
Alors du point de vue technique, on va dire que les personnages, puisque tu peux parler, c'est un jeu donc d'action, aventure, RPG, etc., comme le premier Deus Ex, les personnages ne sont pas ultra bien modélisés parce qu'on peut parler à tous les persos des villes, etc., donc ça demande beaucoup de travail, etc. Ça, c'est une de mes petites déceptions, et puis c'est à peu près tout ce que je peux en dire, puisque le reste m'a convaincu, c'est-à-dire les décors, la direction artistique, le ton général du jeu qui arrive à se détacher du reste, et à vraiment proposer un cyberpunk qui a de bonnes références, genre Blade Runner et tout ça.
Et la question Julo.
Mais oui, la question la plus importante, est-ce que ça représente quelque chose d'assez proche du premier Deus Ex, qui est l'épisode évidemment culte fondateur, qui n'avait pas du tout été suivi avec Deus Ex 2?
Bah, a priori, oui.
On parle de liberté et tout ça, quoi.
Voilà, le problème, c'est que ce genre de choses-là, sur une présentation d'une dizaine de minutes, tu ne peux pas vraiment t'en rendre compte non plus, mais en tous les cas, ça semble être vraiment une des priorités pour les développeurs. D'une c'est part, on les a eu en interview, donc je vous renvoie aussi à l'interview qui est très intéressante des développeurs, puisque c'est Dos Montréal qui fait le jeu. Ils ont une bonne façon de le faire. Je pense qu'ils sont vraiment amoureux du premier, bien plus que le deuxième. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas retenu les bonnes choses du deuxième non plus ou pour autant. Donc à mon avis, oui, mais on ne peut pas vraiment se prononcer dessus.
Ok.
Ok, donc un titre vraiment à attendre pour le premier trimestre 2011, c'est ça, sur
c'est ça,
toutes les plateformes, hein,
a priori
PC, PS3, Xbox.
Mais ils ont pas annoncé, mais a priori ce sera pas avant mars 2011. Ouais.
Très bien. Et puis pour ceux qui n'ont vu que la cinématique, parce que pour l'instant c'est ce qui est dévoilé, bon, allez fouiller un petit peu sur internet, vous découvrirez quelques petites séquences filmées en loose dav derrière les épaules des behind closed doors, histoire de se faire un avis un peu flou certes, mais un peu plus du gameplay. Allez, on enchaîne avec un autre titre majeur à cette E3 2010. Quelque part on l'attendait pas aussi vite. Alors c'est pas Assassin's Creed 3, mais c'est Brotherhood. Et ben néanmoins, on avait un peu peur. En un an, on se disait, oulala, ça fait pas un peu la suite commerciale. Raon, Mimic, on a pu voir à la fois le multi, et le solo, et les deux bah, s'avèrent plutôt séduisants.
Alors, vous, oui, moi, non.
Très bien. Alors,
on m'a dit que le multi, c'était terrible. J'en ai parlé avec des gens qui ont vu l'apprentissage, qui ont dit que c'était extraordinaire.
Bah, moi, j'ai joué aussi une partie entière, je le trouve très bien.
Je te laisse la parole.
Bah, alors, pour le multi, en tous les cas, auquel on a pu jouer, ce qui n'est pas le cas pour moi du solo, en tous les cas, c'est une idée simple. C'est développé par UbiAnsi, ceux qui avaient fait le fameux mode en ligne de Splinter qu'on aime tant ici.
Chaos Theory.
Voilà. Et pareil, idée très simple. Chacun a une proie et la proie de quelqu'un d'autre. On est à 8 sur une map, on choisit sa classe, 2 capacités spéciales et voilà. Après, on se balade dans la ville en étant le plus discret possible pour essayer d'assassiner le plus de cibles possible, sachant que les cibles sont les autres joueurs. Donc c'est paranoïa plus chasse en même temps et ça marche très bien en tous les cas sur la partie qu'on a pu faire.
Et la question Julo.
Non, c'est pas une question. C'est juste pour vous dire que j'ai appelé ça le chat-tu. C'est un peu ça, c'est un chat en fait.
Oui, oui, c'est
qu'il faut se tuer, tu peux pas te percher et tout. Enfin, tu peux, hein, tu peux te percher, mais ça te protège pas.
Le chat-tu remplacera-t-il le chat-tub?
Voilà, c'est le chat-tu. Et je trouve ça, ça a l'air très très drôle
ça
à jouer.
C'est ce que tu dis.
En tout cas, bah, aussi du côté du mode solo, ça reprend directement la suite du deuxième, hein, donc avec Ezio Auditore da Firenze, qui revient avec une séquence d'entrée, bah, vous l'avez pu le voir dans ce qui a été présenté à l'E3, assez sombre. Et nous, ce qu'on a pu découvrir en plus, c'est le BAM Effect, qui est l'une des nouveautés, qui permet en fait de recruter du coup des assassins qui arrivent dans ce sorte de guilde d'assassins, et à tout moment, et c'est super classe, avec Ezio qui lève le bras comme ça, la main qui la ferme, et en fait on voit déjà des assassins alliés qui se mettent un peu dans le décor, et dès qu'on brandit le poing, schlac, ils assassinent leur cible, et comme ça vous continuez à avancer, c'est super classe. Techniquement ils ont amélioré au niveau des cinématiques, les visages, ce genre de choses.
Oh là, oui.
Et sinon bah, ça a l'air, pour ceux en tout cas qui ont apprécié le deuxième surtout, vraiment chouette. On va en apprendre beaucoup plus et clore la trilogie, enfin en tout cas l'épisode de Ezio.
Ce qui n'empêche pas qu'il devrait y avoir une fin waouh, comme l'a dit Patrice Désilets. Donc,
sur Desmond, parce que c'est lui finalement le héros des Assassin's Creed.
Putain, comment tu spoil?
Ouais.
déjà, la fin du 2 est très bien.
Ouais, elle avait laissé en bon suspens. Allez, action-aventure, on continue avec l'un des jeux, avec Gabe Newell qui est passé le présenter. C'était un peu l'une des surprises de cette E3, faire amende honorable chez Sony en disant non, la PS3 finalement c'est pas mal, etc. Bon, ça faisait sourire un peu. C'est Portal 2, ça y est, il sort en 2011. On a oublié de dire Assassin's Creed, ça sort le 18 novembre hein, sur toutes les plateformes. Ouais. Donc Portal 2, ça sort en 2011 sur PC, sur Mac, sur PS3, sur Xbox 360. Qui veut en parler?
Ah, moi je veux bien en parler. Alors, c'est exactement le même principe que le premier, c'est-à-dire un jeu qui est en fait de la plateforme puzzle où tu vas affronter différentes situations, mais ils ont rajouté plein de nouvelles mécaniques assez intéressantes et mélangées avec les anciennes, ça va nous faire des salles, en tous les cas pour celles qu'on a vues, particulièrement retorses, avec des trucs qui font autant faire appel à l'habileté qu'à la jugeote. Donc beaucoup plus ressemblé pour ceux qui ont fait le premier au dernier niveau finalement du premier, qui était le vrai niveau en fait à la place du tutoriel.
Non, il y a les briques qui se fait un petit peu ses buffs.
D'accord, ok, dans le vide comme ça.
Probablement pour parler de Vanquish dans quelques instants.
Peut-être. Et en tous les cas, ça semble très bien parti. Et surtout, au niveau du ton, c'est toujours aussi bien écrit. C'est drôle. Ils ont refait beaucoup les décors en introduisant un petit peu de
végétation, voilà, d'ouverture dans les décors.
Ouais. Parce que Aperture Science, où se déroulait le premier, a effectivement été plus ou moins détruit à la fin du premier, sans vouloir spoiler. Mais en fait, effectivement.
Et GLaDOS est encore en vie.
Bah voilà, elle revient, etc. Donc avec ça et des nouveaux personnages, donc on en pourra découvrir dans cette suite, qui sont tous aussi bien écrits et aussi drôles que les meilleurs moments du premier.
Allez voir les vidéos de gameplay qu'on a postées sur Gameblog. Voilà, on voit à peu près tout, quoi. L'humour, hein, ouais, qui est vraiment un des points forts de Portal. Et puis cette ambiance qui est géniale, quoi. C'est mon coup de cœur, moi, au niveau jeu pour cette autre.
Moi aussi,
je suis tellement content de retrouver cette formule.
Portal, premier du nom, un jeu qui nous avait beaucoup plu. Cette suite, on s'en pourlèche les babines à l'avance, déjà. Allez, Emeric, maintenant que tes biceps se sont bien affûtés, tu vas pouvoir nous parler de l'un de tes jeux coup de cœur du salon. C'est Vanquish, de ton nouveau pote, monsieur Mikami, que tu as pu rencontrer. Vous avez passé un moment intense.
Ça a été très rapide, nous, il répondait oui, non aux questions. Donc, on a zappé l'interview.
Comment vous appelez-vous? Oui.
Voilà, c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que c'est l'occasion de mettre le jeu japonais en avant. Mais bon, bref, il a raté le.
Ça raconte un petit peu quand même.
Oui, bah oui, avec ta casquette cachée derrière le truc. Bref, c'est un style, écoute. Ce qui est sûr, c'est que ça nous a pas empêché d'aller voir son jeu et que son jeu il déchire, effectivement. Donc, c'est un TPS. Ce qu'il y a de plus classique dans la forme, par contre, c'est hyper dynamique. Ça a vraiment une pêche incroyable. Il y a des ralentis un peu, tu vois, à la Matrix. Tu passes par-dessus les rebords. Le personnage glisse sur ses genoux, en fait.
Ah oui, alors ça, c'est très impressionnant. On peut slider sur tout le décor.
Et quand tu décides de cibler au moment où tu slides comme ça, si tu veux, ça ralentit l'action et tu vois les points faibles des ennemis, enfin, sur les boss, en tout cas. Et donc, tu peux tirer. Voilà, c'est le truc, c'est que ça révolutionne pas le genre, mais que ça va deux fois plus vite que tous les TPS que j'ai vus. Et en plus, c'est super facile à jouer. Voilà. Alors, dans la démo qu'on a eue, le truc qui était rigolo, c'est que moi, j'ai fait la totalité de la démo et le boss de fin, le fight durait mais un quart d'heure, 20 minutes. Donc, ou j'ai pas compris un truc, ou alors c'était super facile, quoi, tu pouvais pas mourir. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a un super design, ça va très vite, et par contre, techniquement, ça casse pas non plus la baraque. Enfin, moi, ça m'a pas super impressionné. Voilà. C'est très joli au niveau du design.
Oui, c'est pas laid.
Voilà. Il y a des trucs très stylish où tu peux sortir une clope, genre le mec est planqué derrière une rambarde, et là, il sort une clope en attendant que les tirs arrivent.
Il sort une clope avec son exosuite là.
En fait,
le casque
se barre, en fait, se tire, et à ce moment-là, il sort la clope, et t'attends, quoi.
Et attention, instant question, Julo.
Ah non, c'était pas une question, il y a un truc que j'adore. C'est le côté. Ça ressemble vraiment à Gears of War dans les mécaniques de jeu et tout, sauf que c'est évidemment sous amphétamine, ça va à fond la caisse. Et en plus, tu tires non seulement depuis ta couverture, etc., mais tu peux aussi foncer vers les mecs et les bastonner directement. Ça fait très japonais, finalement, ça fait très manga et tout.
Alors c'est bien que tu soulignes ça, parce que j'en ai parlé à Mikami, il m'a dit oui, effectivement. Voilà, je te répondrai oui.
On a vu ça dans les vidéos, et c'est très classe, quoi, de mélanger un peu le côté shoot classique à la Gears of War avec ces petits instants très japonais, avec ces énormes mechas que tu bastonnes avec les points et tout.
Donc le Game Zener ne défonce pas, mais le jeu, ouais.
Vanquish, c'est la fin de l'année sur PS3 et Xbox 360. Allez, Julo, tu avais le micro à l'instant. Cette fois-ci, tu ne vas pas pouvoir poser de questions. Tu vas pouvoir répondre à nos interrogations concernant un jeu un petit peu étrange, mais qui est très séduisant. C'est El Shaddai.
El Shaddai, mon autre coup de cœur.
Si tu arrives à dire le sous-titre, vraiment, je te respecte.
Ascension of the Metatron.
Putain, ah bah voilà.
T'as vu, mais tu sais, j'ai déjà étudié et tout. Alors j'ai été sur Wikipédia me renseigner sur le livre d'Enoch, parce que c'est basé en fait sur sur l'Ancien Testament, et plutôt un livre apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu par l'Église.
C'est ça. Joli. Alors là, apocryphe.
Et donc, t'as vu un peu là. Ouais, super renseigné. Bon, bref, déjà j'aime bien le côté mystique du scénario, des personnages. Donc Enoch, il va essayer de sauver l'humanité d'un déluge, parce que Dieu est super vénère à cause des anges déchus, et notamment de Lucifer, qui s'appelle Lucifel dans le jeu. Il y a des petits changements dans les noms comme ça. Et c'est un jeu d'action-aventure avec de la plateforme. On sait pas trop exactement, il y a beaucoup de passages beat démol a priori, mais c'est surtout un design assez incroyable. Alors il faut savoir qu'il y a un mec qui a bossé sur Okami au design, qui bosse sur cet épisode, sur son nouveau jeu.
C'est le producteur, quoi.
C'est le producteur du jeu, avec un autre ancien de Capcom, si je dis pas de bêtises. C'est magnifique. C'est-à-dire que vraiment ça peut varier dans les styles, mais globalement on a une impression de jouer dans une espèce de peinture, quoi. Alors il y a des phases de plateforme vue de profil, il y a des choses avec des caméras plus mobiles, etc., de la baston. Mais moi, vraiment, ce qui m'a épaté, c'est les scènes cinématiques aussi, qui sont en animation traditionnelle, qui sont superbes. Ces textures incroyables, ces décors un peu vides, c'est assez surprenant, mais hyper varié. Ça t'interpelle toujours, quoi. Quelles que soient les scènes qu'on a pu voir dans les trailers, c'était superbe.
Allez, El Shaddai, ça sortira en 2011, PS3 360, on l'attendra effectivement
avec impatience.
Revenir dessus, parce qu'effectivement, il y aura probablement pas mal de choses à dire. C'est un jeu qui a du fond, c'est bien, et de la forme aussi. Allez, on arrive sur PSP avec un jeu qui nous a bien surpris, parce qu'on pensait que la PSP, ça y est, avait un peu craché ses tripes. C'est Ghost of Sparta, le nouveau God of War, développé chez Ready Add-on Mimic.
Tout à fait, le truc, c'est que moi, je pensais plus être surpris par la PSP, surtout avec la Nintendo 3DS, etc. Et ça claque la gueule. Alors, le plus surprenant, c'est dans la cinématique d'intro, tu vois le visage de Kratos, qui est effectivement deux fois plus beau que ce que j'avais vu sur Ghost of Sparta. Donc ça, c'est impressionnant.
Enfin, sur le premier Ghost.
Oui, chez Olympus.
Olympus, excusez-moi, un peu fatigué. Et donc, non, c'est en plus.
Une semaine après, le décalage horaire frappe.
Arrêtez. Et donc voilà, il va avoir donc des nouvelles armes qui vont avoir plus d'importance dans les combats, puisqu'il va vraiment, ils vont avoir une utilité précise, surtout sur certains boss. En tout cas, c'est ce qu'on avait comme exemple dans la démo. Et donc, il utilise la lance et le bouclier, tu vois, de 300. Il avance comme ça, d'ailleurs, super la classe. Et tu peux jeter la lance sur le boss qu'on avait à ce moment-là. Donc voilà, donc ça a pas l'air de révolutionner la chose, mais en tout cas, c'est hyper impressionnant techniquement, vraiment.
This is Ghost of Sparta,
c'est ça, j'ai envie de dire.
Allez, on arrive, on change totalement d'univers, hein, après les gladiateurs, place aux gladiateurs, mais du futur, moderne, avec Halo Reach, hein, qui nous a quand même un petit peu surpris, parce que moi, personnellement, Halo, pour moi, c'était un peu le puits sans fond, là, c'était entre la grande dégringolade. Là, il y a l'air d'avoir de nouvelles idées, un peu de nouvelles choses.
Bon, en tous les cas, ce qu'ils ont dévoilé cette année, c'est effectivement un niveau qui n'a finalement rien à voir avec ce qu'on connaît de Halo à la base, puisque c'est du shoot up, en fait, à la Colony Wars, pour ceux qui s'en souviennent, c'est-à-dire du dogfight dans l'espace. Donc ça a duré très peu de temps, la présentation a été très courte, ils n'ont pas montré d'autres éléments de la campagne solo, puisque c'était ce qu'on désirait voir. Beaucoup de gens ont déjà joué à la bêta multijoueur et on sait que de ce point de vue-là, ce sera solide, sinon révolutionnaire. Mais en tous les cas, pour le solo...
Quoi ? C'est rigolo. Sinon, révolutionnaire, l'histoire me donnera raison.
Non, non, mais c'est vrai que, bon, voilà, ça n'aura pas changé énormément, c'est du Halo en multijoueur, quoi. Donc voilà. Par contre, de ce point de vue-là, effectivement, quand ton personnage, donc je rappelle que c'est pas le Master Chief, mais la Noble Team, voilà. Donc 6 nouveaux Spartans avant le tout premier Halo, c'est une préquelle du tout premier Halo. Et donc tu rentres dans une fusée et un peu sans chargement, en fait, tu décolles et tu te retrouves petit à petit en orbite dans une navette. Et là, tu affrontes les forces
face de shoot.
Covenant en plein shoot, voilà, à l'extérieur. Donc c'est bien fait, ça a l'air sympa à jouer. Ce sera pas tout le jeu non plus. Mais on nous promet aussi d'autres phases un peu différentes comme celle-là.
Ouais, donc, y a eu l'arrivée sur la planète aussi en début de présentation, qui était quand même plus impressionnante que d'habitude. Allez, attention, c'est instant Julo réaction.
Non, c'est précisément de ça que je voulais parler. Effectivement, cette petite démo pendant la conférence, ça m'a rappelé le premier Halo. Et j'étais très content que ça me rappelle le premier Halo, et du coup ça m'excite,
c'est vrai.
Pour une fois je suis excité par un Halo.
Ça fait partie des choses qu'ils voulaient faire justement avec cette suite d'ailleurs, redonner ce sens un petit peu de
je trouve que vraiment ça fait penser au début de Halo en fait. Voilà.
Et avec des combats au corps à corps désormais plus impressionnants, où la caméra ressort et on voit son Spartan de la Noble Team donner les coups fatals. Ça sortira
Et bien à la fin de l'année
sur Xbox 360 exclusivement, pas d'annonce pour le PC pour l'instant. À la fois pour l'instant Halo et c'est un peu éloigné du PC. On continue du côté de Microsoft avec Fable 3, Raon.
Oui, alors Fable 3 pour la première fois était effectivement jouable sur le show floor. En termes de jeu, c'est-à-dire purement à la main, pas l'impression que ça fasse des différences énormes, et pourtant il y a des vrais changements dans le gameplay. Par exemple, la magie maintenant tu peux mélanger deux sorts en même temps, enfin il y a plein de nouveaux éléments. La principale nouveauté, ce sera quelque chose qu'on devra attendre avant de le découvrir pleinement, c'est-à-dire le fait qu'à la moitié du jeu on devienne le roi d'Albion et que l'on gouverne vraiment à proprement parler le monde de Fable. Il est aussi deux fois plus grand normalement, puisque Albion est devenu maintenant un continent, qu'il y en a un nouveau qui s'appelle Aurora qui sera exploré plus tard. Il y aura un second twist scénaristique après l'arrivée au pouvoir du joueur, qui va dans la première partie du jeu affronter son frère qui est un despote au pouvoir, en essayant d'accumuler le plus de suivants possible, qui remplacent en fait les points d'expérience d'avant.
On pourra devenir un dictateur à son tour.
Exactement, tu pourras, bien. Et ça se fera partie du jeu. Est-ce que tu vas respecter tes promesses ? Est-ce que tu vas
Alors, et si nous parlions, je sais pas, comme ça me vient, de Dead Space 2. Dead Space 2 qui m'a fait, moi, personnellement, un effet buff pendant il y a eu deux présentations, en fait, qui se suivaient. C'était une phase qui se suivait dans le gameplay. Et je trouvais que c'était peut-être pas très surprenant, mais ça en foutait plein la poire.
C'est super bien mis en scène, très clairement. On sent que Electronic Arts a vraiment voulu pousser le jeu cette fois-ci, puisqu'on le sait que les ventes du premier Dead Space n'ont pas été faramineuses. Alors que la qualité du titre était vraiment très haute. Néanmoins, étant fan du premier, je trouve qu'il y a une sorte de petite glissade, en tout cas de tout ce qu'on a vu, et moi après je l'ai vu en Behind Closed Door aussi un petit peu plus, vers l'action. Il y a énormément d'ennemis, ça crie, ça tire dans tous les sens. Alors attention, ils ont peut-être montré un passage qui était particulièrement dense pour nous en mettre plein
la
vue.
Et t'as quand même la mise en scène qui est incroyable. C'est ça qui m'a frappé moi dans ces phases de gameplay là, c'est que intégrer vraiment dans le jeu ces deux trois petites scènes comme ça qui t'en foutaient plein la poire et qui te permettaient après de continuer à jouer, etc.
Avec des sorties
avec ce monstre énorme, cette sortie dans l'espace sans le bruit et tout. Enfin voilà.
Mais je mettrais deux autres bémols pour une fois de plus les fans du premier. On sait que le héros était à la fois muet, en tout cas il disait pas un mot dans l'aventure, et hormis la toute première séquence, les 30 premières secondes de jeu, on ne voyait jamais son visage. Là on voit son visage et honnêtement pas très glams pour un sou.
Non.
Deux, il parle maintenant et il parle beaucoup. Et en fait, il se tient comme s'il avait une oreillette, l'oreille pour parler. Alors, tu te dis quand même.
C'est un hommage à Solid Snake.
Ouais, c'est ça. Mais pendant un jeu entier, le mec, il a rien dit. Et là, soudainement, il se balade. Yes, man. Il est super vénère tout le temps en plus. Mais il arrête pas de donner des ordres et tout. Ça fait un
C'est le monde merveilleux des jeux vidéo. C'est comme quand Raon parlait de Fable. Albion, c'est désormais un continent. Genre, tu sais, c'est un endroit qui grandit. Voilà, d'un épisode à l'autre. Bon, c'est pas très logique. Mais en même temps, voilà, quoi, ça reste un jeu.
En tout cas, ça a l'air efficace. En tout cas, les décors sont plus variés. En tout cas, il y a plein d'ennemis, etc. Moi, je mettrai encore un petit bémol, j'attendrai d'en voir un peu plus pour voir si l'ambiance a été respectée. Ils ont la volonté d'ouvrir.
Ils en ont foutu plein la gueule parce que c'est un salon ricain, voilà.
C'était le jeu américain.
J'ai cette impression là aussi, moi je l'ai vu ailleurs aussi qu'à l'E3 et j'ai remis cette impression là aussi. C'est
la même
beaucoup plus action.
Ouais, moi je le crains aussi un petit peu. À suivre. Autre jeu horrifique, mais qui lui, en revanche, on n'a pas pu le voir, on n'a pas pu y jouer, on a vu qu'un trailer, c'est Silent Hill, le nouveau Silent Hill qui n'a pas de sous-titre pour l'instant.
C'est le huitième, c'est ça ?
C'est le huitième de la série. Il est développé en République tchèque chez Vatra Games. Alors à la fois comme ça, au début, quand ça a été annoncé, on a un peu flippé. Et ben, ce qu'on a découvert, vraiment, est très séduisant. Techniquement, c'est mis à jour par rapport à Silent Hill Homecoming, qui pour moi a vraiment été une déception sur les consoles HD. Shattered Memories sur Wii, alors certes, t'es pas très beau, mais enfin, en tout cas revenait à l'esprit un peu plus psychologique. Là, ça a l'air de marier un peu d'action, un peu psychologique, avec un fugitif qui s'évade, qui arrive à Silent Hill, etc. Franchement, ça m'a donné super envie. En tout cas, ce serait un petit... Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est faire un reboot de la série, repartir aux bases, sans délaisser l'action, qui est quand même un petit peu le parent pauvre à chaque fois des Silent Hill, mais en respectant les origines, c'est-à-dire pas de bourrinage, etc. J'attends de voir ce qu'ils peuvent faire, mais dans cette cinématique qui dure quoi, 5-6 minutes, 4 minutes,
ça donne envie.
Franchement, ça donne super envie.
Ouais, carrément, voilà. J'ai eu les mêmes impressions.
Voilà. Avec le retour vraiment de la lampe torche et tout, enfin, on était complètement dedans. Changement d'univers, une fois de plus, vous avez vu, hein, c'est complètement fou. C'est ça le 3 aussi. Hein, on passe à droite, à gauche, de l'horreur à aux plages paradisiaques, mimique du Pirates des Caraïbes.
Tout à fait, alors ça reprend l'univers des films, sauf que ça se passe quelques temps avant, et donc c'est un autre personnage qui est un capitaine de navire qui en fait... pour différentes raisons, bref, explore des îles.
Rien à voir avec Jack Sparrow.
Non, du tout, en fait, du tout. Mais les personnages s'en inspirent très clairement, en fait. Et donc, en gros, c'est calqué sur un fable. Ça ressemble vraiment à un fable, mais avec des idées un petit peu originales. Donc, par exemple, dans les combats, on a des systèmes qui vont permettre de débuffer les ennemis. Donc, tu vas leur filer un coup qui, à ce moment-là, va faire que tes coups à toi vont être beaucoup plus puissants. Et donc, c'est un truc à utiliser au bon moment. Donc voilà, il y a surtout une vraie patte graphique rapport à ces, enfin, vraiment à Disney, quoi, qui donne vraiment un charme pas possible au jeu. Donc, moi, ça m'a vraiment bien plu. Et puis surtout, il y a les choix, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, on va te donner une mission, on va dire de faire telle chose, et au moment où il va falloir accomplir ta mission, bah, tu peux choisir de comment est-ce que je pourrais dire compléter l'objectif ou alors t'approprier le reward sans compléter l'objectif, et à ce moment-là ça va t'apporter d'autres choses et ouvrir l'accès à d'autres quêtes. Voilà, donc ça c'est peut-être pas super original, mais ça, le jeu a de la gueule, et
finalement plutôt une bonne surprise, en fait.
Ah, complètement. Par contre, c'est, voilà,
il y a un truc que vous avez pas vu mais qui avait l'air pas mal aussi, c'était le fait que l'on pilote un bateau finalement et qu'on peut se balader.
Oui, alors ça on l'a pas vu, ils sont pas étendus là-dessus non plus, mais bon, ils disent effectivement que on va pouvoir se balader un petit peu à la Legend of Zelda
Wind Waker.
Voilà, Wind Waker. Merci bien.
Ok. Wow. Très bien. Eh bien, parlons maintenant.
Ça sort à la fin de l'année.
Bien.
Il me semble.
Oui, fin 2010, PS3, Xbox 360 et PC. Alors, si vous le voulez bien, parlons maintenant
de Dust.
De Dust, un beat'em all à l'ancienne en 2D sur Xbox Live, particulièrement joli, raffiné au niveau du design. Julo.
Qui c'est-il donc qui est derrière ce jeu? Dust. Ah non, Dust, pardon, je confonds avec Project Dust. C'est pas grave. Oui, effectivement. Et apparemment, c'est un mec tout seul, effectivement, qui développe ça. Et c'est juste magnifique. Ils l'ont mis juste avant la conférence. C'est un jeu en 2D qui m'a fait beaucoup penser à Muramasa, qu'on a beaucoup apprécié ici parce que c'était très joli, vaguement old school, etc. Là, c'est vraiment le même principe, sauf que voilà, le design change un peu. On a des superbes forêts comme ça. L'animation du personnage qui ressemble un peu au personnage de Magician Lord, pour ceux qui ont connu.
Oh là, avec son chapeau, etc.
Super bien animé aussi. C'est magnifique, et c'est beat them all, quoi, c'est à dire que il va bastonner des monstres à longueur de temps, mais avec des combos à répétition. Il y a des boss qui s'annoncent juste gigantesques, avec un design vraiment bien particulier, des textures qui font un peu dessin animé comme ça. C'est vraiment superbe, et moi il m'a tapé dans l'œil clairement au tout début de la conférence, donc Microsoft.
Tout à fait, en pré-show, ça nous permet aussi de dire qu'on a découvert un peu les premières images d'Alan Wake, en tout cas du DLC, The Signal, avec mon accent toujours incroyable,
le signal,
voilà, qui sortira fin juillet sur Xbox 360, gratuit pour ceux qui ont la version collector, et puis pour les autres, bah, je crois que c'est 560 Microsoft Points ou un truc comme ça.
Non, c'est gratuit pour tous ceux qui l'ont acheté en neuf et qui ont le bon en fait avec, voilà. C'est ça. Ouais.
Voilà, fin juillet. Autre jeu, cette fois-ci sur PlayStation 3, qui utilise le PlayStation Move et qui nous a laissé plutôt une bonne impression.
Bah moi, c'est
même
ça
peut être pas de mine, c'est Sorcery.
Move, ouais, c'est ça. C'est un jeu qu'on a découvert, en plus, un des rares nouveaux titres vraiment dont on ne savait rien avant, qui a été dévoilé pendant la conférence de presse Sony au PlayStation Move, avec un univers entre Harry Potter et.
Et Medieval, moi, je trouve.
Il y a un petit peu de ça, effectivement.
Côté, c'est vrai.
Et moi, c'est peut-être le jeu Move qui m'a donné le plus envie de jouer au Move, en fait.
Mais surtout, c'est vraiment un jeu gamer, quoi, en même temps. C'est que quand tu compares avec les jeux Kinect, on est quand même à des années-lumière, quoi. Là, c'est un vrai jeu.
C'est clair.
Voilà, ouais. Fait ses sorts avec sa baguette.
Exactement. c'est vraiment du Harry Potter like et c'est plutôt bien foutu quoi, c'était pas mal aussi niveau graphisme.
On peut se transformer en rat et tout pour se balader.
Il y a des potions, plusieurs potions différentes qui nous transforment en animaux différents, donc on imagine déjà qu'il y aura effectivement des puzzles différents en fonction des animaux et tout ça. Et puis toute cette mécanique des sorts qu'on fait à la baguette au move,
la baguette move,
et qui a l'air de très bien fonctionner. En tous les cas, sur la démo ça marchait très bien, on était juste devant le gars qui faisait la démo, donc on a bien vu.
Un peu eu du mal au début quand même.
Ouais, au début il était surtout flippé, il tremblait tellement.
Mais ça a été un peu de toute manière le thème de cette E3. À chaque conférence, il y a eu des petits plantages. On sent aussi que ces appareils qui fonctionnent en Bluetooth, en détection, etc., sont très perturbés quand même dès qu'il y a plein de signaux. Et là, c'est clair qu'il y avait 800 PC en Wi-Fi.
Ouais, c'est un peu pour ça aussi.
Dans tous les sens, c'est toujours un peu de mal à s'initialiser.
Mais en tous les cas, ça marchait plutôt pas mal et ça a l'air effectivement intéressant. Et comme disait Tra, c'est un jeu gamer.
Exactement. À suivre. Devil's Third, le nouveau jeu de monsieur
Itagaki.
Voilà, l'homme à la peau de... trop bien classe.
C'est ça, le créateur de Dead or Alive et Ninja Gaiden, etc.
Alors, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça part dans tous les sens.
Est-ce qu'il y a des gros seins déjà?
Il y a des seins, mais des gros, pas tant que ça finalement. il n'était pas dévoilé en jouable en tous les cas là. C'était juste un nouveau trailer qui est donc visible sur Gameblog, mais ça reste de l'action. Sauf que cette fois, il y aura aussi du shoot, voilà. Il y aura du slashing, c'est-à-dire donc à la lame.
Il y a toujours le slash, mais c'est vrai qu'il a rajouté le shoot et il veut faire le plus grand shooter de tous les temps.
Comme d'habitude. Voilà. Enfin, Itagaki
fait pas les choses à moitié.
Voilà,
quant au hack,
tout dans la modestie, ce sera le meilleur projet de Itagaki ever et probablement le meilleur jeu d'action de tous les temps ever, probablement aussi. En tous les cas, les slash sont vachement, c'est un petit peu comme Metal Gear Rising en fait. Ouais. C'est que apparemment quand tu slashes un ennemi, t'as vraiment une truc qui se découpe à l'endroit où tu le slashes et tout ça. D'après le trailer, en tous les cas, c'est ce qu'on a pu voir. Mais on devra attendre de voir vraiment le jeu pour en savoir plus là-dessus, en tout cas.
Très bien. Et puis, alors, juste
ça sortira chez THQ. Faut le dire aussi, parce qu'il n'est plus chez Tecmo.
Il est parti. Juste pour la petite anecdote, raconte ce qui s'est passé à une conférence de presse avec lui, parce que ça c'est rigolo en deux mots.
Oui, en fait, il y avait des séances où Itagaki présentait le jeu et il y a un journaliste anglais, je crois, qui n'avait pas du tout vu le trailer, qui savait pas du tout ce que c'était, etc. Et Itagaki commence la conférence en demandant, alors vous avez tous vu le trailer, etc. J'ai pas besoin de vous expliquer les trucs. Le journaliste a levé la main en disant non. Et Itagaki a commencé à lui dire bon bah je vais t'expliquer ce que c'est vite fait, histoire que tu saches de quoi on parle. C'est donc un RPG qui se passe à la Renaissance. Avec que des nanas, etc. Il lui a raconté un pipeau énorme en restant super sérieux et le mec notait tout. C'était juste énorme. Fantastique. Voilà.
Il a pas dû être déçu du voyage quand il a vu des images. Voilà, allez, on passe à un autre jeu qui a déjà été présenté à l'E3 l'année dernière. C'était Metroid Other M sur Wii. Qui veut en parler? Honnêtement, il est passé un petit peu dans l'été noir, hein, le jeu basseur là, hein, dans quelques jours, quelques semaines.
Ouais.
On a déjà beaucoup parlé.
Une impression incroyable. J'ai l'impression que le buzz est en train de baisser un peu.
Moi, je suis sûr que ça va être super. Hein. Ouais. Je suis sûr que ça va être un très très bon Metroid. Voilà, il s'inspire un peu de tout ce qui s'est passé dans le passé de la saga. Il garde des bonnes choses de Metroid Prime avec des phases en shoot à la première personne aussi. Moi, j'adore les Metroid perso. J'aime bien la formule et tout, et je pense que en y ajoutant toute l'action aussi bien que Tecmo sait le faire avec la Team Ninja, je pense vraiment que ça va être un très très bon jeu. Oui,
moi c'est vraiment,
je le sens
pas
bien.
Pour casser du sucre sur la Wii, vraiment pas, hein, mais j'ai trouvé que ça avait vraiment pris un coup de vieux visuellement quoi.
Ouais, moi pour y avoir joué en Angleterre au Nintendo Summit il y a quelques mois, effectivement on a pu jouer on va dire 20 minutes, pas plus. C'est vrai que c'est pas que c'est pas beau graphiquement, mais c'est qu'effectivement quand tu compares tout de suite avec les jeux qu'il y a sur les autres consoles, bah forcément il y a une sacrée différence.
C'est toujours pareil.
Maintenant, moi je suis pas un fan de Metroid, mais pourtant j'ai apprécié celui-là. Ouais. Alors je sais pas te dire pourquoi exactement, mais j'ai trouvé ça assez fluide, assez bien foutu. Après t'as des petites cinématiques qui gèrent bien le scénario, etc. Donc t'es dedans tout de suite. Le son était vraiment pas mal, on était tous sous casque et tout. Et franchement, il y a vraiment une bonne ambiance quoi. Et pourtant, vraiment, je suis pas un fan.
Je l'attends aussi. Hein, mais
j'ai l'impression que c'est vraiment le meilleur de tout ce qui a été fait dans Metroid concentré. Et voilà. Pour moi, ça va être un très bon jeu d'action.
Hâte d'y mettre un peu plus les mains dessus. On revient à un jeu qui est à la frontière hein, vraiment de cette catégorie. Ce serait plutôt RPG, mais il n'y en a pas eu tant que ça finalement pendant tout l'E3. C'est le nouveau Golden Sun qui a été annoncé mais qui a fait ses grands débuts sur DS.
Nous, on l'a vu juste en vidéo depuis Paris. Ouais. J'ai trouvé ça superbe.
Dark Dawn.
Dark Dawn, voilà. Moi, j'y ai joué assez longuement. En fait, il y avait plusieurs phases dans la démo. Et en fait, ça mélange en gros trois genres, on va dire. Il y a des donjons à la Zelda, ce qui est un peu nouveau, peut-être. Les phases de RPG standard où tu vas discuter à tous les NPC dans un village, etc., enquêter sur la suite. Et puis, les combats, évidemment. Tout est jouable soit au stylet, soit à la manette, avec une interface adaptée dans les deux cas. Et ce qui est bien, c'est que, alors déjà d'une part visuellement, pour de la DS, c'est super impressionnant, mais vraiment. C'est peut-être le plus beau jeu DS que j'ai eu. C'est tellement magnifique, les combats sont sublimes, les effets, etc. Avec les invocations qui prennent les deux écrans et tout ça, c'est vraiment super beau. Il y a plein de petites mécaniques en plus. Ça a l'air très riche, très très bien fait. Enfin, vraiment, c'est un peu... bon. Il n'y a pas eu beaucoup de RPG assez traditionnels à la japonaise cette année, mais en tous les cas, de ceux que j'ai pu voir, Darkdown a l'air d'être vraiment vraiment un des meilleurs. Assez traditionnel, mélangeant traditionnel avec plein de petites nouveautés. T'as les djinns qui servent d'invocation et qui ont des mécaniques propres et tout ça. Il y a plein de nouvelles choses. Okay. Ça a l'air vraiment bien.
Très bien. Il sort à la fin de l'année.
Normalement, oui.
Il sort à la fin de l'année sur Nintendo DS. Au jeu qui n'a pas, lui, été daté pour l'instant, mais normalement c'est 2011, c'est Metal Gear Solid Rising. Alors on n'a pas pu en voir plus que vous, hein, très honnêtement. On a juste eu un moment avec les nouveaux producteurs qui donc nous a bien précisé que ça se passerait entre Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 4. Donc l'histoire de Raiden, comment il est devenu, comme on l'a découvert dans MGS4.
Comment il a pété un câble.
Exactement.
En découpant 2000 personnes.
c'est ce qui peut effectivement se comprendre du coup.
2000 pastèques.
L'ambition autour de ce jeu, c'est de faire en sorte de vous rendre jouable des séquences comme on l'a vu dans MGS4 où ils se battaient contre les geckos ou contre Vamp.
Ah, c'est ça le pitch.
C'est un peu ça l'idée. D'accord. Ouais. Il y aura des petites phases d'infiltration, mais beaucoup plus nerveuses que ce qu'on connaît traditionnellement dans la série des Metal Gear. Voilà à peu près ce qu'on connaît. Et leur ambition, et surtout leur volonté, on le sait, le Japon n'est pas non plus un pays où l'ultra-violence vidéoludique est exacerbée. Du coup, c'est pas forcément de tuer tout le monde en le tranchant, c'est on vous laisse la possibilité de le faire, mais surtout trouver des astuces avec le décor pour faire tomber des trucs, etc., histoire que de pas vous pousser forcément à trancher tout le monde dans tous les sens avec le fameux système du Zandatsu, couper et ramener vers soi, voilà, qu'on découvrira un petit peu plus en profondeur, probablement au TGS. Voilà, et on ne pourrait conclure cette catégorie action-aventure sans y englober le nouveau Zelda.
Ah.
The Legend of Zelda Skyward Sword.
Qui t'a déçu?
Qui moi m'a clairement déçu, oui.
Il t'a déçu graphiquement?
Ah non, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il m'a pas déçu que graphiquement. C'est-à-dire que oui, graphiquement il m'a déçu. Je parle pas d'esthétique parce que ça c'est très subjectif, mais techniquement parlant, on a quand même une simple texture qui fait le sol, des aplats de texture assez grossiers, très honnêtement, sur tout ce qui est arbre, arbuste. La démo en elle-même était particulièrement vide, il n'y avait pas grand-chose à faire. Moi, ce qui m'a déçu, c'est l'attente autour d'un Zelda, plus de 4 ans d'attente, voir qu'il montre ça. D'habitude, à chaque fois, c'est la première fois où l'annonce d'un Zelda ne m'a pas fait jubiler. C'est la première fois où j'ai rien vu dans le trailer qui m'a excité. C'est la première fois où, une fois que j'ai mis la main dessus, parce que bien évidemment, on a vu la démo de Miyamoto, il y a eu un peu de mal, mais on le disait, il y a eu des interférences, etc. Une fois qu'on a la Wiimote en main, ça marche très bien. Mais c'est pas, il y a couper en devant prendre vraiment les directions droite, gauche, haut, finalement freine un peu le plaisir immédiat de jeu. Du coup, c'est un peu rébarbatif. Et puis, je sais pas, la magie opérait pas totalement.
Il est plus difficile que les autres, ça c'est certain. À cause de ça,
ils ont complexifié un petit peu les commandes, quoi.
Et puis avec le Link qui a le bras toujours tendu quand même, c'est ça qu'il faut pas oublier. Aussi, parce que comme justement ça reproduit le mouvement du bouclier avec le Nunchuk et l'épée avec la Wiimote, on a quand même un Link qui se balade constamment le bras tendu en haut, à droite, à gauche.
Pendant les scènes de combat.
Il rengaine tout de suite en fait si tu fais rien. Et je pense que c'est justement pour éviter que ce soit vraiment tout le temps comme ça.
Et je peux même vous dire une chose. C'est que hier jusqu'à dimanche, donc puisqu'on enregistre le lundi, jusqu'à 4h du matin, nous avons monté la dernière émission de Gameblog sur MCM où on a fait un gros point sur l'E3. Donc on a étudié les images, on monte les images, donc image par image. Il y a des bugs dans la vidéo, c'est moi la première fois que je vois ça chez Nintendo, de mains qui se mettent de Link, qui manque des étapes dans les animes, etc. J'ai l'impression que ça a été rushé. On sait que le jeu devait sortir à la fin de cette année et que finalement il est décalé parce que Miyamoto n'était pas content du résultat. Je sais pas,
Je pense que t'as tout résumé en disant que c'est la première fois de ta vie qu'on présente un Zelda à un E3 et que t'es pas sous le charme en fait. Ouais. C'est vrai, c'est la première fois, moi c'est exactement pareil. Je suis sûr que ça va être un très bon jeu et tout, qu'il va être très très bien fini, parce que là effectivement il était mal fini, ils l'ont rushé pour le présenter. Mais il n'y a pas le truc qui nous a fait faire waouh et qui nous a marqué. Et surtout qu'au niveau design.
C'est à mi-chemin entre Wind Waker
Il
n'est pas vraiment situé, exactement. Ouais. Voilà, pour moi, c'est
suivant. Donc, c'est pas pour toutes les personnes qui ont dit pourquoi tu le mets dans coup de gueule, etc. C'est pas fondamentalement un coup de gueule, c'est une déception. Voilà. Et elle est des attentes que je plaçais dans ce titre. Pas de panique, comme le dit Julo, il sera probablement très bon à la fin. Il y aura des séquences dans l'air, il pourra voler, etc. Probablement. Ce sera sûrement très bien. Mais pour l'instant, petite impression. Allez, on passe à une grosse catégorie de l'E3, des jeux surreprésentés, si vous aimez.
Tata-boum.
Voilà, la violence, le sang, les douilles qui tombent, ben ça y est, vous allez être contents. Les shooters la sont guerre. Parmi nous. Et on va commencer avec celui qui nous a le plus bluffé techniquement parlant, en tout cas, c'est Crysis 2, Mimic.
Bon, on avait parlé, on discutait à propos de Killzone 3 aussi, tu sais, du duel entre les deux jeux, savoir qui était le plus impressionnant. En tout cas, moi, Crysis 2 m'a mis une grosse claque. Bon, je l'ai vu dans des conditions particulières, hein, c'était dans une pièce sombre avec du casque, son, etc.
En 3D
donc,
ou pas?
Donc ouais, 3D, ouais.
Donc, c'était, particulière, c'était, donc bonne.
Oui, très très bonne, voilà, effectivement, enfin, des conditions que j'aurais du mal à voir chez moi. Mais voilà, donc c'était, donc c'est effectivement, pour moi, c'est la claque visuelle. D'ailleurs, il y a un trailer qu'on va passer aujourd'hui, je crois, un truc comme ça, où on voit ces scènes. Ah oui, oui, tout à fait.
Mercredi,
ouais. Ouais, mais là c'est déjà trop dur pour moi avec le mec. Donc bref, voilà, donc techniquement c'est une grosse claque. On sait que l'armure se gérera pas de la même manière, que ce sera un petit peu simplifié en regroupant des pouvoirs. Il y a même un système de customisation. Donc voilà, mais c'est surtout, oui, techniquement c'est une claque monumentale pour moi, quoi. Voilà, plus que Killzone 3, vraiment. Mais je l'ai pas vu dans les mêmes conditions, encore une fois. Voilà,
oui, mais 3, ça m'étonnerait pas, effectivement. Voilà. En tous les cas, que ce soit très difficile de les départager tous les deux. Oui,
bah, au niveau mise en scène, il n'y a pas photo quand même de ce que j'ai vu de Killzone 3 et de Crysis 2. Dans Crysis 2, tu es là, tu lèves la tête, il y a un bâtiment entier qui s'écroule, tu sais pas trop où aller. C'est New York en plus, alors le city, il est génial.
Effectivement. D'ailleurs, je trouve ça un peu. C'est surprenant que ce soit New York, tu vois des immeubles s'effondrer, etc. Quelque part, ça m'a
rappelé
des images. Et c'est,
non, mais on a le droit maintenant.
Oui, je sais, mais bon, c'est quand même, ça fait bizarre parce que c'est tellement bien fait justement que ça.
Voilà, mais donc, c'est donc vraiment impressionnant, non seulement techniquement, mais au niveau de la mise en scène.
Tu te fights et boum, hop, tu passes à une scène, effectivement, tu lèves la tête, t'as un truc qui s'effondre, boum, tu te refights et il se passe un autre truc, t'as un truc qui s'effondre. Enfin, moi, je me rappelle d'une scène où tu te balades et hop, t'as les murs qui se fissurent à côté de toi, c'est super.
Moi, c'est le shooter ultime de.
Ouais, parce que ça joue beaucoup sur la destruction, c'est une des tendances depuis Bad Company 2, les décors qui se détruisent, quoi. Donc,
en tout cas, messieurs, vous aurez probablement l'occasion d'y jouer en Allemagne, la terre des créateurs de Crysis, Crytek, puisqu'il sera probablement à la Gamescom, cette fois-ci en joie, puisque là, ça a été que des présentations avec les développeurs qui jouent, hein, même si c'était vraiment le jeu. Bah justement, hein, Killzone 3, le jeu, on rappelle, Crysis 2, c'est fin 2010, PC, Xbox, PS3, et donc son concurrent, quelque part, un petit peu, dans le match entre les shooters, Killzone 3, qui lui sortira en février 2011, exclusivement sur PS3. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Pour moi, en tous les cas, techniquement, puisqu'on parle de ça, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, vu qu'ils sont un peu tous aussi post-apocalyptiques, machin, ça se ressemble énormément. Il va beaucoup plus loin en termes d'effets, genre la neige, les océans autour. Enfin, vous avez pu les voir dans la démo et les trailers, c'est visuellement particulièrement percutant. Après, les vraies nouveautés, il n'y a pas forcément 30 millions de trucs non plus. Ça fonctionne en 3D par contre aussi très bien, tout le jeu en 3D. Ils nous ont fait la démo pendant la conférence de presse.
Moi, j'ai eu un mal de crâne effroyable.
Moi aussi.
J'ai trouvé ça plutôt bien réussi. L'effet 3D était convaincant, mais alors qu'est-ce que j'avais mal à la tête au bout de 15 minutes quand même.
On était assez mal placés aussi. On était très bas par rapport à l'écran. On était comme ça et l'écran était un peu genre titanesquement grand. Donc bon, on verra à la fin avec une vraie télé et machin.
J'étais
si on a
pas
ça.
Mieux placé, j'ai Avatar, j'avais moins mal à la tête.
Ouais. Bon. On verra, en tous les cas, c'est vrai que c'est super beau, donc il y a un jetpack en plus. Toutes ces nouveautés-là, finalement, on les connaissait déjà, ils n'ont pas dévoilé beaucoup de nouvelles choses par rapport à ce qu'on avait vu un petit peu avant d'aller au salon. Mais en tous les cas, ça marche bien.
Vous l'avez testé au PlayStation Move ou pas?
Pas moi.
Non, c'était pas testable au PlayStation Move, par contre, c'est compatible, effectivement.
Oui, ils ont annoncé,
que ce serait compatible. Oui, quelque part, ça va être le jeu test.
Ça va devenir le PlayStation Move, en fait.
Avec SOCOM 4, au niveau des jeux vraiment gamers. Et juste pour conclure sur quelque chose qu'on avait évoqué en tant que rumeur lors d'un précédent podcast sur peut-être que la 3D serait que sur un niveau qu'ils abandonneraient, visiblement, c'est clairement pas le cas. Ce sera le jeu porte-étendard de la 3D sur PS3
et PS4.
Sur le même Blu-ray, nous répétait-on sans cesse à la conférence Sony. Attention, il y a deux jeux sur le même Blu-ray, la version 3D et la version 2D. Voilà.
C'est complètement
dingue.
Allez, autre jeu, cette fois-ci c'est plutôt du TPS, c'est sur Xbox 360 en exclusivité, c'est Gears of War, mort badass, mort machin truc qui fait mal à la tête. C'est américain avec Cliff Bleszinski qui nous l'a présenté. Qui va en parler? Parce que c'est joli, c'est impressionnant. Enfin joli esthétiquement.
Moi j'ai pas
style,
été super emballé.
Mais moi non plus.
Moi j'ai pas été super excité. Avec les gros monstres, etc. J'en avais déjà fait part au moment où on a fait le bilan de la conf Microsoft. Donc ça m'excitait pas des masses. On n'a pas pu.
Les gros monstres, ça t'excite pas?
Plus maintenant.
Mais il y a une fille dans l'équipe maintenant.
Oui,
peut-être que ça t'excite un peu plus.
Ouais, un petit peu plus, mais bon. Mais justement, Cliff nous expliquait qu'il respecte la femme, contrairement à d'autres. C'est ce qu'il sous-entendait, où en fait, tu verras que la femme est
à des formes féminines et qu'elle est c'est plus comment est-ce qu'on appelle ça, c'est supputé, tu vois, qu'elle est bien faite etc.
Bien faite,
mais non, mais tu vois, mais on met pas en avant ses gros seins etc. Voilà, donc il dit que Gears of War quelque part respecte la femme,
mais j'espère qu'elle sera aussi vulgaire que ses copains, parce que c'était ça qui était rigolo dans
à mon avis. Elle va dénoter parce qu'il avait l'air très fier de proposer quelque chose à part avec ce personnage, donc il y a quelque chose de particulier avec ce personnage.
Peut-être outré quand ses potes vont parler,
c'est ça, va savoir.
Elle va être très chiante, c'est ça,
c'est les gros monstres qui vont lui faire peur.
Le 2 était tellement efficace, très honnêtement, qu'on va attendre. C'est vrai que ça nous a pas fait un effet incroyable, mais il a l'air très solide, très bien conçu.
Moi, les gros monstres, ça m'a impressionné. Alors après, je suis pas un anatolat de l'univers de Gears of War, et a priori, ça dénote quand même un petit peu avec ce qu'ils ont fait avant. Mais leur animation, la façon dont ils arrivent, les tas de différences de mouvements qu'ils ont et tout ça, m'ont plutôt impressionné.
Il était pas surprenant, mais on sait qu'il va être aussi solide que les autres.
J'avais posé la question à Cliff, et effectivement, il disait que chaque monstre aurait une manière d'être abordé, si tu veux, avec des petites spécialités, etc. Donc ça, effectivement, tu as raison de souligner cet aspect.
Allez, autre jeu, autre FPS, enfin un FPS cette fois-ci, l'autre c'était un TPS, hein. Très très attendu, ça risque d'être le multi-million seller de la fin d'année. Il s'agit de Call of Duty Black Ops, la revanche de Treyarch, après s'être pris 4-5 baffes depuis quelques années par Infinity Ward. Et ben là ils ont dit, oh, c'est fini ces conneries.
Ils en avaient marre que le monde entier leur dise, mais vous êtes moins bon que les autres.
Vous êtes des merdes, ouais. C'est ça que le monde leur disait avec les Call of Duty 5 et compagnie. Et bien là ça y est, c'est parti, franchement ils ont mis tous les moyens. Et bah moi j'ai été assez calmé quand même.
J'étais bluffé même pendant la conférence Microsoft, parce qu'ils ont plus ou moins commencé avec ça. Oui. C'est arrivé en tout. Oui, ils ont commencé
c'est le premier
ça.
Truc qu'ils ont montré, c'est ça.
Et bah cette scène là de gameplay avec le mec qui rentre dans la grotte, qui croise un autre gars dont le visage est ultra bien fait, l'ambiance, les textures, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Techniquement parlant, c'était assez incroyable.
Ouais, c'est sûr que c'est le haut du panier des shooters, et Dieu sait que la qualité globale de tous ces jeux-là était quand même très très haute. Il y avait la scène avec l'hélicoptère aussi.
Ah oui, oui.
On parlait, mais vas-y, je te laisse.
Vas-y.
Parce que toi, t'as pu le voir un peu plus, Mimix.
Pas tellement plus que après vous, mais ce qui m'a vraiment intéressé, si tu veux, c'est qu'ils essayent de varier les plaisirs, notamment avec cette phase d'hélicoptère. Et d'ailleurs, tu affrontes, ce que tu remarques dans la vidéo,
Godzilla.
Que des. Non.
Pas. C'est pas ça, c'est pas
là. que des trucs différents, si tu veux. Un coup c'est un hélicoptère, un coup tu frappes sur un pont, un coup tu vas tirer sur une jeep, un coup tu vas tirer sur un gars avec un canon.
Un coup c'est Traz.
Voilà,
exact.
Un coup c'est Godzilla. Et donc du coup effectivement, on sent qu'ils ont envie de varier le truc. Effectivement, la scène dans les tunnels, ils jouent surtout sur la surprise. Ouais. Ils proposent d'autres émotions qu'on peut avoir dans les TPS classiques. Donc moi ça m'a vachement surpris pour ça.
Est-ce qu'on peut avoir un instant émotion de la part de Julo là,
Julien Hubert.
Attention, ça t'a fait quoi comme sensation?
Instant émotion.
Ça fait ah ouais, voilà.
Très bien. Okay. Un truc trace qui devait être plus intéressant, j'imagine.
Non, pas du tout.
Très bien, formidable.
Non, je déconne en fait.
Merci les gars.
Je veux dire qu'effectivement, ce trailer il m'avait plus impressionné que le précédent volet.
Ouais, moi aussi.
Je sais pas pourquoi, mais.
Moi j'ai été un peu. Je suis resté un peu froid sur Modern Warfare 2, qui au final m'a pas laissé une impression colossale. Là, ça m'attire vachement plus.
Ouais, beaucoup plus.
Super varié, il y a alors plein de trucs. Et puis on a envie de quelque part de leur souhaiter plein de bonnes choses, parce qu'on sent qu'ils ont en gros sur la patate. Je suis très arch.
Sans patate.
Voilà, allez, autre gros jeu qui lui aussi était très énervé sur cette E3, c'est Rage, le nouveau de John Carmack, qui sort lui sur tous les formats, même sur Mac,
oui,
en 2011.
Ouais.
Raon.
Bah écoute, on l'avait déjà vu au Bethesda Days, on n'a pas vu grand chose de plus, si ce n'est qu'il va y avoir des. Au Bethesda Days, il va y avoir aussi des ennemis assez gros, ça c'est ce qu'on a pu voir cette fois-ci. Ils nous l'ont fait, tu sais, en deux temps. Genre un premier qui a l'air waouh, impressionnant,
en deux.
Et mais en fait, il y en a un autre après qui est encore plus gros, voilà.
Quel art du marketing incroyable! Oh my god! Non mais parce que aux États-Unis, ça marche très bien, hein, tu fais ça, les mecs vont. Oh fuck, oh my god!
Fucking god!
Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très 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 beau titre. Au départ, tu sais pas forcément trop pourquoi, parce qu'il a pas l'air d'être si percutant que ça par rapport aux autres qui sont aussi bien. Et puis plus tu le vois, et plus tu commences à mesurer à quel point l'histoire des méga textures et du nouveau moteur de Carmack ça joue, parce qu'il y a pas deux cailloux qui se répètent. C'est vraiment tout le temps différent.
Tu fais quoi dans la vie? Je design des cailloux. Et toi?
Et Raon, lui, il compte les cailloux.
C'est ça.
Je génère des cailloux.
C'est quand j'ai pas de thermos à ramasser. Il faut bien que je
m'occupe.
Voilà, donc en tous les cas, ça s'annonce très bien. Il n'y aura pas que du shoot, il y aura aussi effectivement des combats en buggy et tout ça. Enfin, tout ça, on le sait déjà.
Il a l'air bien profond quand même, ce jeu. Moi, j'attends pas mal celui-là.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il est très immersif, et ça sera aussi très ouvert, même si ça reste du shooter, comme ID sait le faire. C'est quand même les créateurs de.
Si la caméra tremble, c'est que Poufy est pris de. Pas du tout pourquoi. Et que ça tremble.
Bien sûr, Carmack, il va vendre son moteur 10 millions de dollars encore à tout le monde.
Non, ils vendent pas.
Bon, allez, arrête.
Mais je te dis que c'est pas leur politique. Ils ne vendent pas à tout le monde, c'est pas Unreal Engine.
vendre à quelques personnes.
On verra dans 6 mois.
Non, mais il a raison, par rapport à ID Software, c'est lui, Epic, voilà.
Epic.
Et l'Unreal Engine, ils sont plus conservateurs.
Ah oui, oui.
Ils choisissent vachement
avec des partenaires, en fait. Ils travaillent en termes de partenaires, pas en termes de licenciés.
Ok, si tu dis.
Allez, haut du panier, comme le diraient des gens que je connaisse bien, des shooters.
Top of the top.
Un grand retour aussi, qui je trouve est assez alléchant, c'est Medal of Honor du côté d'Electronic Arts, qui a essayé de bien faire les choses, très honnêtement, avec une campagne solo et une campagne multi bien séparées. Le multi, c'est les mecs de
DICE,
donc Bad Company 2, qui sont dessus, et franchement, ça a l'air chouette. Et au niveau du solo, bah, c'est les mecs en Californie, de Los Angeles, d'Electronic Arts, qui sont en train de faire quelque chose d'assez bien traité, hein. Qui l'a vu chez nous, je ne sais
alors
plus.
Tu as joué en multi toi?
Ouais, j'ai joué super vite, hein, donc je pourrais pas en parler des heures, mais
tu as joué à 24 en multi,
j'ai vu showcase, voilà, mais sinon j'en ai pas vu tellement plus sur le 3, quoi.
C'est vrai qu'il le garde un petit peu, enfin il dévoile pas 30 millions de choses, mais en tous les cas c'est de la campagne militaire contemporaine avec option réalisme.
C'est quand même le premier jeu qui se déroule dans une guerre qui a encore lieu aujourd'hui.
C'est justement souligné
parce que c'est en Afghanistan,
qui disait que justement c'est presque un pour aider les soldats, si tu veux,
un simulateur de l'armée,
il y a un vrai respect du soldat pour eux dans ce jeu là donc j'ai hâte de voir comment ça se traduit justement vraiment au sein du jeu, parce que ça reste quand même du pam pam boum boum, donc j'aimerais quand même voir comment est-ce qu'ils vont amener ça.
C'est très scénarisé, il y a effectivement beaucoup d'empathie, mais j'en ai parlé à Los Angeles avec un journaliste de USA Today et il me demandait mon impression, genre vous en tant qu'Européen, etc., qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'ils disent aux États-Unis ça risque de faire un méga scandale parce que justement c'est la première fois qu'un jeu se passe sur un terrain d'opération encore actif et dans lequel on aura une simulation de tuer des gens qui sont en train de tuer pour de vrai. Et ça leur pose des petits problèmes, donc on verra un peu comment ça va réagir.
Est-ce qu'on pourra trouver des armes de destruction massive?
Non, parce qu'elles n'existent pas, je te rappelle,
Gino. Oui. Voilà. Ah oui, non, c'est bien pour ça que je pose la question.
Allez, on enchaîne avec un terrain d'opération plus fantaisiste, quoique. C'est XCOM.
Ah oui,
moi ça m'a fait un effet bœuf.
Ça t'aime bien. Il y a des escalopes ou les
voilà. Non, j'en ai pris plein la poire, ce genre de choses. Non, mais je vais te laisser en parler, hein, mais moi, juste du point de vue parisien, le trailer, j'ai adoré l'ambiance, quoi. C'est-à-dire années 50, 60, voilà. Science-fiction, cette espèce de truc monolithique, et puis ces taches de quoi de
pétrole. C'est des aliens, en fait.
Et c'est des aliens qui ressemblent à des taches de pétrole, comme ça, qui sautent sur les gens qui ont l'air. Défiguré, possédé et tout, ça a l'air génial.
C'est effectivement les deux choses qui sont intéressantes, parce que vous allez voir que dans toute cette liste de shooters qu'on a là, dont on va parler et dont on a déjà parlé,
dont on est à la moitié,
voilà, c'est peut-être le seul et unique qui a un setting qui soit pas soit post-apocalyptique, soit guerre contemporaine. Donc
et ça, j'ai envie de dire, ça fait du bien.
Bah oui, ça fait un peu de bien. Donc c'est effectivement l'Amérique des années 50 avec des valeurs familiales très présentes, toutes celles des pubs de l'époque, les États-Unis âge d'or où tout va bien, et puis les aliens débarquent. Et c'est aussi
What the fuck?
C'est aussi la suite d'une série qui était axée stratégie presque pure, je dirais, vieille série. Donc là, les missions seront en phase de shooter, effectivement, mais entre les missions, il y aura quand même un retour du personnage principal dans son QG, qui va effectivement utiliser les ressources du XCOM, qui est une agence gouvernementale secrète, qui est chargée d'enquêter sur l'inconnu, sur ces aliens qui débarquent, quels sont leurs points faibles, etc. Et donc les missions qu'on va jouer Julo essaye d'imiter Traz, et forcément voilà, parce que dans le dernier podcast à je sais plus quel temps il y a un truc extraordinaire qui se passe. Bref, et donc tous les joueurs ne joueront pas forcément toutes les mêmes missions, etc., en fonction de ce qu'on aura choisi. Donc il y a quand même une dimension stratégique, une dimension de progression dans l'histoire, et c'est écrit par les gars de Bioshock, ou en tous les cas une partie des gars de Bioshock, de 2K Marine. Donc c'est vraiment rafraîchissant et particulièrement bien fait, même si ce qu'on a vu là laisse à penser qu'il y a encore pas mal de boulot.
Ok, ce qui est moins rafraîchissant, c'est d'enregistrer un podcast sous une verrière alors qu'il fait 30 degrés dehors et qu'on n'en peut plus, on est en train de ruisseler. Voilà, on enchaîne, on est à peu près à la moitié des shooters, on va passer un peu plus vite que sur les premiers shooters. C'est des shooters, on va dire, de qualité, mais plutôt un peu moins
de qualité.
Sur le devant de la scène, avec les premiers pas de Red Faction Armageddon qui sortira en mars 2011, messieurs, qui va en parler?
Bah, moi. On en a pas vu beaucoup non plus, 30 000 trucs, mais en tous les cas, ils ont des idées d'armes assez originales et ça exploite toujours un moteur physique et la destruction des décors aussi de manière intéressante. Ça se passe en souterrain, en tous les cas pour ce qu'on a vu au départ. C'est pas la même optique que le précédent qui était très bac à sable, très ouvert. Ça a l'air de ressentir plus sur du TPS plus classique, mais avec une infestation d'aliens et machin.
Bah non, super original.
Ouais, ça a l'air classique, mais effectivement avec du gameplay.
Ils ont des armes sympas, genre notamment une où tu tires en deux fois comme le fusil à portail de Portal. Donc la première t'accroche à un autre truc, le second tir attire tout ce que
un peu comme un Just Cause en fait.
Un peu comme le grappin, comme le grappin de Just Cause 2 effectivement, sauf que là ça arrache tout quoi.
Ok. Très bien. Fear 3, messieurs, qui sort à la fin de l'année.
F3 AR, en fait.
Ouais.
Justement, j'avais des problèmes avec ça. Donc, moi, je l'ai vu, ouais.
Oui.
Donc, voilà, c'est simple. Donc, tu vas jouer un personnage principal. Enfin. Que l'on connaît, qui vient du 2, dont j'ai oublié le nom, je ne me rappelle plus, c'est terrible. Bref, c'est
est-ce
le même personnage.
Alma revient,
moi, bien sûr, évidemment. Elle est enceinte et tout ça. Enfin, bref, c'est. Enfin, ça ne nous regarde pas, j'ai envie de dire, bien sûr. Et donc voilà, donc on va pouvoir incarner le personnage principal, ou alors son frère, qui lui va être un esprit. Donc ce qui est vachement sympa, c'est qu'on va pouvoir prendre le contrôle des ennemis, des ennemis, et donc bénéficier de leurs aptitudes particulières. J'essaye de rester concentré. Hein.
Oui, oui, oui.
Et donc voilà, et donc ça propose deux gameplays différents, et ce sera jouable évidemment online. Et donc c'est beaucoup plus intéressant effectivement d'y jouer.
Attends,
à deux.
Un FPS jouable online, ah, c'est ça, c'est révolutionnaire, ça.
En coopération,
ça, il faut le souligner.
What the fuck, en coopération. Donc voilà, donc sinon techniquement ça m'a pas super impressionné, mais bon, ça reste assez joli. Comme
c'est l'ambiance qui fait les fears. Surtout,
oui, voilà, c'est surtout ça. Ça m'a fait un peu fear.
C'est Alma.
Allez, F3 fin 2010 sur toutes les plateformes. Enfin, pas toutes, pas la Wii. Ah bah tiens, en parlant de la Wii, quelle transition incroyable. Le retour de James Bond GoldenEye 007 avec Daniel Craig dans le rôle titre. On se rappelle tous du mythique GoldenEye de la Nintendo 64. Et bah celui-là, globalement, pour la faire très simple, très rapide, très concis, c'est le même avec des textures un tout petit peu plus lissées. Et faut le dire, à la conférence, tout le monde a fait « Oh putain, c'est génial !» Et sur le show floor, tout le monde a fait « Ne donnez pas la manette,
impossible.
Voilà. » Personne n'y jouait, c'était incroyable.
Ah bon, si, moi j'ai joué.
Ah bah, on l'a trouvé, Mimic.
Donc on a fait du multi, et voilà, écoute, ça m'a redonné les sensations, effectivement, du GoldenEye d'antan, je l'admets volontiers, mais c'est vrai que c'est pas très joli.
Ah bah c'est
que,
dur
c'est compliqué à jouer, j'ai trouvé. Ouais.
C'est Activision qui le développe, hein.
Ouais.
Enfin, c'est pas Activision, enfin, c'est là-bas, mais... Mais c'est un petit développeur qui a pas fait grand chose avant. Quoi.
Donc c'est ultra old school.
Évidemment. Voilà, c'est effectivement à l'ancienne. Par contre, la jouabilité effectivement à la Wiimote ou plutôt au Nunchuk fait que t'as des petites manips compliquées pour passer par-dessus un carton pour pouvoir tirer sur le côté, etc. Ça, on va s'y faire à mon avis. Mais bon, du coup, c'est un petit peu plus compliqué à jouer qu'avant. Voilà.
Et puis ça avait bouleversé les FPS à l'époque. Aujourd'hui, ça va être dur de bouleverser avec
le premier stick analogique. C'était pas le même contexte.
Il y a du monde là au Crocrano.
Est-ce que Homefront, lui, va nous surprendre? Il est prévu pour le deuxième trimestre 2011 sur toutes les plateformes. Il nous avait laissé une bonne impression l'année dernière. Est-ce que c'est réédité cette année?
Il m'a pas fait aussi forte impression que l'année dernière, même si on a revu cette scène extraordinaire où t'as le personnage qui débarque dans un village de civils qui essaye de survivre sur les États-Unis, puisque le pitch du jeu, c'est la Corée du Nord qui
envahit les
États-Unis. Incapable de gagner la Coupe du Monde, se venge sur les États-Unis. Voilà.
Il y a la Corée du Nord à la Coupe du Monde.
Ah ouais, ils se sont pris combien, 10 buts à un match, mais en tout c'est 12 buts ou un truc comme ça en 3 matchs.
Ok, oui, bon, effectivement, donc la Corée du Nord se fait massacrer à la Coupe du Monde 2010 et 20 ans plus tard elle envahit les États-Unis. Et donc le campement est particulièrement bien fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air vraiment écrit dans les moindres détails, y compris visuel. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, il y a des choses, il y a vraiment de la vie. C'est pas comme d'habitude dans les jeux vidéo où t'as des campements post-apocalyptiques partout dans plein de jeux. Et puis, mais sauf que cette fois-ci, t'as vraiment l'impression d'y être, un petit peu comme la série Jericho à la télévision. C'est écrit par John Milius, donc on a bon espoir que le scénario soit bon. Et
on rappelle un peu qui est John Milius pour ceux qui ne le connaissent pas.
Apocalypse Now, Red Dawn, Conan le Barbare, j'en oublie. Donc un scénariste d'Hollywood.
Conan.
Bah moi j'adore le premier, perso, mais bon. Bref, par contre après dans les faits ça reste un shooter et on n'a pas vu quoi que ce soit en tous les cas en termes de gameplay qui le fasse sortir autant du lot que cet aspect narratif là avant.
Très bien. Et je crois que c'est un peu le même cas pour Spec Ops The Line, qui était aussi un petit peu attendu. Hein. On sait ça, le Dubai shooter comme on l'appelait, qui joue avec le sable, etc. Finalement,
voilà, c'est un TPS, mais alors effectivement, tout ce qu'on a vu du jeu du sable, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de choses autour de ça, c'est de ce qu'on a vu en tous les cas pour l'instant, que des trucs scriptés. Donc t'arrives à un endroit, tu shootes sur un mur, il y a du sable qui arrive, ça crée
Dubaï,
un passage, et voilà, et c'est tout. Donc, mais ça reste plutôt beau, mais ça a l'air ultra classique.
Je trouve ça d'une absurdité absolue de camper le... le terrain de jeu à Dubaï, quoi.
Pourquoi? Pourquoi?
Pff, débile. Non, mais c'est vrai, quoi.
C'est comme Dubaï, ça fait flanc, c'est Dubaï.
Non, mais ça fait vraiment. Genre, on fait la promotion de cet émirat, voilà, je sais pas.
Bah, en tous les cas, sur place, oui, ça fait pas trop la promo, hein, vu ce qui se
passe. Non,
peut-être,
mais bon, tu parles du jeu, voilà, tu sais que c'est à Dubaï. Mais pourquoi, quoi?
On a peut-être un pirate
shooter. Bah, en tous les cas,
shooter, ça change de New York, bah, oui. San Francisco et autres grandes capitales américaines. Enfin, pas capitale, mais grandes villes américaines, quoi.
Mais bon, je sais pas, non, moi ça me saoule.
Moi, je veux qu'il fasse un Assassin's Creed à Paris.
C'est à, voilà. À la Révolution française, on le souhaite tous, mais bon, on verra bien.
Paris, c'est une vraie ville, c'est peut-être Dubaï. Dubaï est sorti de nulle part, quoi, si tu veux.
Très bien. Bon, façon Ghost Recon Future Soldier, un jeu qui mise sur l'infiltration, le tir, les combinaisons. Aidez-moi.
Les exosquelettiques.
Non, oui. Mais, c'est ça,
les thermocamouflages.
Voilà.
Ouais. Camouflage optique, en fait. En réalité.
Exactement. Alors, moi je trouve ça pas si mal.
Ouais, moi sans Long Gameplay, je trouvais ça un peu douteux, moi, pour le coup. Ouais, parce que ça a l'air facile, quoi. J'ai l'air en fait, il n'y avait aucune difficulté dans cette phase-là qui nous montrait, effectivement.
Je l'avais vu à Paris et j'étais très inquiet, du coup, parce que moi j'avais beaucoup apprécié les gros, donc Ghost Recon Advanced Warfighter, et c'est la suite.
Tout à fait spirituelle.
Voilà. Et sauf que là, ça c'est. Je dirais pas casualisé, mais en tout cas, ça c'est voilà, c'est devenu beaucoup plus un jeu d'action que de stratégie. L'équilibre a été rompu, je trouve, à ce stade, en tout cas.
Oui.
Mais j'aime bien le côté les super armes du futur, machin et tout. Ça a l'air très sympa, mais ça ressemblait beaucoup à Gears of War quand je l'ai vu, en fait, dans la jouabilité.
Vu après,
et je trouvais ça dommage, vraiment dommage.
Comme la scène sur la plage où il se planque effectivement, et c'est que du TPS, alors que le reste c'est plus, c'est plus effectivement l'infiltration, le début de la démo.
Donc vous me confirmez ma première impression.
Il semblerait,
il y a des attaques concertées. Et tout, moi j'ai trouvé ça, ça reste peut-être plus accessible et tout.
Mais il semblerait qu'ils soient en train de réviser beaucoup de choses. Il semblerait, hein, c'est du domaine de la rumeur, qu'ils soient en train de réviser beaucoup de choses par rapport à ce qu'ils t'avaient dévoilé toi et voir à la limite.
J'ai pas vu grand chose, hein, c'est vraiment de l'alpha et tout.
De refaire une Splinter Cell Conviction. Refaire un petit peu le jeu du truc. Mais bon.
À suivre dans ce podcast, eh bien, les jeux de plateforme, les jeux de course, les jeux de baston, les jeux de sport et les inclassables. Et vous allez voir, il y a des très belles pépites, toutes petites, toutes belles. Toute séduisante. Mais on va commencer avec la plateforme qui a fait son grand retour à l'E3. Il y en avait un petit peu moins ces derniers temps. Bah là, il y en a avec des gros jeux, hein, des trucs vraiment séduisants. On commence avec Epic Mickey, qui a un petit peu divisé la rédaction, pour être tout à fait franc.
Non. Bah, moi, j'attends toujours de voir. J'aime bien et j'ai confiance en Spector, qui est un grand bavard, mais aussi un bon game designer à qui on doit notamment Deus Ex.
Okay, un homme de goût au niveau des petits pulls qu'il arbore.
Un petit peu, oui, toujours sans manche, avec l'école en V, etc. Moi, ça m'a rassuré visuellement, en tous les cas, par rapport à ce que j'avais pu voir auparavant, qui était très très loin d'être fini.
Ouais.
C'est quand même nettement mieux.
Ah, mais je trouve ça vraiment pas beau, quoi. Je trouve, on dirait de la PS2 lycée.
Pareil que toi, je suis super déçu.
Je crois que ça y est, c'est bon. Là, mon shift de la Wii, il est tombé. C'est bon. Je crois que je peux.
Ah, bah c'est sûr que ça reste de la Wii, ça c'est certain. Mais
là, c'est plus possible et je crois qu'il faut vraiment passer à autre chose.
Non, mais surtout le petit teasing qu'ils faisaient avant, où vous allez voir, on a tout changé.
Ah, bah si, ils ont tout changé pour le coup. Je t'assure que tu l'as pas vu avant.
J'ai vu des images, des vidéos, tout ça. C'est pareil, quoi.
De la version avant, celle-là.
Ouais.
Ah bon?
Bah celle que t'avais été voir à Londres.
Ouais, moi je suis d'accord avec Traz, hein. Oui, il y avait pas l'éclairage, voilà, et tout, mais franchement ça a pas bouleversé le jeu.
Bah pas en termes de modélisation.
Moi j'y ai joué, il y a personne, il y a trois pauvres ennemis un peu brrr qui se dandinent comme ça, comme des bouffons. Voilà, tu leur balances des coups de pinceau.
Insulte pas Mickey, ok?
Non, mais franchement pour moi il y a une erreur sur la plateforme. Ça veut dire que oui, bien
sûr,
erreur
de casting.
Mickey sur la Wii, ça paraît logique. Le seul problème, c'est que pour moi, ce Mickey, il est pas du tout fait pour le public de la Wii. Ils vont arriver c'est Mickey, ça va être sympa.
C'est plus
et tout.
Pour les vieux amoureux de Disney, effectivement, qui connaissent
Disney et Deus Ex, tu vois, avec des choix un peu sur les trucs. C'est compliqué. Pour moi, le public de la Wii, il va péter un câble avec ça. Et franchement, il aurait été mieux sur Xbox ou sur PS3 avec le petit pinceau, machin. Mais je trouve pas ça très clair aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on nettoie ou quand on peint? Vraiment, visuellement, parfois, c'est un peu déroutant.
Mais la formule est compliquée, ça c'est certain. Ça n'empêche pas que moi, j'ai encore espoir que ça soit un très bon jeu. Et par contre, ce qui serait bien, peut-être, effectivement, c'est qu'ils en fassent après une version PS3 et une version 360 avec le Move et peut-être Kinect, si jamais ça existe encore. Mais
non, mais franchement, pour Warren Spector, on l'a eu en interview, il est passionnant, cet homme, il est génial, il a plein de trucs à dire.
C'est un génie mental, je pense.
Quand il raconte justement le développement d'Epic Mickey, c'est passionnant. Mais franchement, derrière, moi, à chaque fois, je le regardais, puis derrière, il y avait l'écran, et je regardais l'écran, et je faisais... putain merde, il me parle de ça là. Et vraiment, je bat tripais quoi. Je dois l'avouer. En plus, on a vécu un triple tremblement de terre au moment où on était en interview.
Ça tombe un peu mal, ouais.
Non mais c'est vrai, on était avec Cédric. Ouais ouais, il y a eu échelle 4,7 sur l'échelle de Richter. On a eu senti trois secousses du cosmique. On a dit oh là, qu'est-ce qui se passe sur le stand d'à côté. Puis on trouvait que c'était un peu trop fort pour juste un bruit de salon. Et en fait non, c'était on a regardé après sur internet à l'heure précise, etc. À Los Angeles, un petit peu au-dessus, au nord de Los Angeles. Triple tremblement de terre, le deuxième plus gros des 5 dernières années.
Ah ouais, quand même, donc le big one n'est plus très loin.
C'est ça, on a bien fait de se chercher les toilettes. Bon, Epic Mickey, vous l'avez vu, c'est contrasté.
J'ai bien aimé la petite référence à Steamboat Willie, donc le premier dessin animé.
Mais c'est pour d'autres références.
Ça, c'était super sympa.
Ouais, sauf que je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant la conférence et après nous, ils nous l'ont fait pareil dans le stand. Jamais il a réussi à finir ce putain de niveau. Jamais, il se plante tout le temps. Regardez les vidéos, hein. Il n'y arrive pas lui-même à sauter, à faire les sauts. Ça a l'air, en termes de maniabilité, il a l'air de sauter et de retomber très vite, un peu à la God of War 3. Et moi, ce système de saut m'avait vraiment frustré.
Mais là, en l'occurrence, t'étais pas le seul. Moi, ça m'a complètement échappé pendant le test pour God of War 3. J'ai pas eu de soucis, mais t'es loin d'être le seul
abrupt,
à avoir eu des, soucis avec le double saut.
Excuse-moi, je vais en profiter parce que t'étais tellement foutu de ma gueule lorsque j'y jouais en sautant et que je me cassais. Tu disais, mais t'es vraiment un blaireau, etc. machin. Là, je vais donc me faire plaisir. Et
you are a blaireau.
Ma gueule à tort. Merci.
Mais l'histoire lui donne parfois raison.
Exactement. C'est gouré.
C'est bon, putain, c'est bon.
T'as Kirby's Epic Yarn.
Allez, on continue avec d'autres jeux de plateforme. Et vous allez voir que clairement, nous, on n'est pas là pour dire la Wii, machin, etc. On dit juste qu'effectivement, sur certains jeux, et surtout quand ils poussent la 3D, bah, on arrive vraiment à des limites. Et voilà, maintenant, les consoles HD sont quand même dominantes, visuellement en tout cas.
Alors
néanmoins,
qu'en 2D,
ça marche pas mal avec un Kirby's Epic Yarn qui, pour moi, et je crois pour toute la rédac, hein, l'une des grosses baffes de ce salon parce qu'on l'attendait pas. Kirby est un personnage sympathique, bon, enfin qui soulève pas l'engouement des foules. Et là, c'est classe, c'est original, c'est tout mignon avec ses décors, avec ce petit personnage en fil de laine.
Le côté broderie, etc. Ouais. C'est super bien fait, quoi. Il y a plein de petits, petits détails, effectivement, avec le personnage qui se balade un peu partout et qui arrive à se transformer en plusieurs formes. À faire mesure qu'il avance et tout, c'est vraiment magnifique quoi.
Et on joue avec le décor, il y a l'air d'avoir plein d'idées de gameplay.
En fait, tout est très ultra coloré. Animé. C'est ultra bien animé. Ouais. Quand tu dashes vers l'avant, t'as ton petit Kirby qui devient une bagnole. C'est juste une animation quoi.
Mais pour le coup, un Epic Mickey comme ça, ça aurait été magnifique.
Et moi je trouve aussi, ouais.
Ça aurait été parfait. Peut-être que Disney n'aurait pas été content, mais. Mais exactement, ouais, c'est beaucoup plus clair. C'est très fin, c'est très lisse. Enfin, on dirait pas de la Wii, quoi, tellement c'est beau.
Moi aussi, c'est pareil, c'est l'effet que ça m'a fait. J'ai presque eu l'impression que c'était de la 2D en HD, tellement c'est fin, propre.
Et c'est de tellement bon goût qu'on en parle tous comme le plus beau jeu du salon. Pour un jeu Wii, très spécial dans les choix esthétiques, et pourtant c'est génial. Et tu disais que c'était utilisé dans le gameplay, tous ces petits trucs là, la broderie et tout. Il y a par exemple ce passage, tu tires un fil, ça plisse le décor, et du coup le saut est moins long, tu peux le faire.
Un zip comme une braguette qu'on tire, ça fait descendre, tomber le décor.
C'est ingénieux et c'est magnifique. Donc,
ils ont toujours un nouveau concept avec les Kirby, hein. Rappelle-toi du canvas sur DS qui était juste extraordinaire avec le stylo.
Qui était très bien. Et pour autant, ça me tentait pas autant que là, vraiment, c'est le premier Kirby qui me fait cet effet là.
Mais il y a du vrai coopératif à deux aussi, ce qui n'est pas toujours le cas avec les jeux de plateforme. On prend encore Super Mario Galaxy 2 là où tu as juste un curseur, c'est pas très intéressant comme expérience. Là, il y a vraiment deux personnages à l'écran avec le nouveau personnage dont j'ai oublié le nom, le petit bleu. Et les deux personnages peuvent même fusionner pour devenir un grand tank, etc.
Ah, ça va être un super jeu, hein.
Je pense aussi. Ouais.
Et pour conclure sur Kirby's Epic Yarn, je pense aussi que s'il reste vraiment dans nos têtes, c'est parce que c'est l'un des rares jeux un peu frais qui surnage de cette E3, très guerrier. Et effectivement, bah, du coup, forcément, il attire un peu plus l'attention, mais c'est vrai qu'il a l'air très réussi. Autre jeu, toujours sur Wii, c'est Donkey Kong Country Returns. Lui, il est en 3D, mais c'est vu de côté et ça fourmille d'éléments dans le décor. Ça a pas l'air ultra innovant, hein. C'est vraiment un hommage au Donkey Kong Country de la Super Nintendo, mais ça a l'air de le faire de manière très efficace. C'est développé par Retro Studios, ceux qui avaient fait les précédents Metroid Prime. À jouer, c'était agréable, on secoue, etc. Il tape, il saute, c'est très bien réglé et ça a l'air très vivant, très chatoyant. Ça donne la banane.
Ce sont des très bons développeurs, Retro Studios. Ils font toujours des jeux ultra léchés. Alors, il y a le contrôle technique Nintendo toujours derrière en plus. C'est un jeu qu'on avait adoré sur Super NES.
Mais c'est vraiment, pour moi, en tous les cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être vraiment la même chose.
Ah oui, c'est pas hyper surprenant, mais ça va être un bon jeu de plateforme pure, quoi.
Traz.
Sauf qu'effectivement, sur Super Nintendo à l'époque, donc c'est Rare qui l'avait fait. On était abasourdi par les qualités graphiques
avec
tous les niveaux, exactement. Enfin, c'était de l'image de synthèse, quoi. Pour Super Nintendo, c'était hallucinant.
Ils avaient fait les personnages en image de synthèse et ils les remettaient en sprite après. En fait.
Là, je doute qu'effectivement on ait cette claque à chaque niveau, etc. Mais bon, ça va être efficace et puis comme tu le disais, Julio, bah, c'est Nintendo, donc Donkey Kong pour eux c'est super important. Ils vont pas le louper quoi.
Et alors pour la petite anecdote, apparemment le jeu initialement Retro voulait le faire en 2D. Et Nintendo leur aurait dit faites-le en 3D, s'il vous plaît. Et ça marche très bien. Preuve, vous voyez, hein, qu'on apprécie aussi des belles choses quand elles sont bien réalisées sur
Tout
Wii.
Tout à fait.
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sectarisme à Gameblog concernant la Wii. Rassurez-vous. Bah ouais, exactement, comme le dit Julo qui n'avait pas de micro. Donc
c'est la console du jeu de plateforme.
Exactement. Allez, autre jeu de plateforme, Rayman Origins sur PS3, Xbox 360. Et oui, avec une nouvelle manière de travailler du côté de Ubisoft Montpellier.
Il travaille à 2,5 maintenant.
Voilà, c'est ça, c'est le jeu. Alors, on a dit, le jeu est développé par 5 personnes. C'est pas totalement vrai, c'est 5 artistes. Mais derrière, il y a quand même des codeurs, etc. Donc, ils n'ont non plus 25. Hein, mais
ils codent surtout la plateforme, en fait. Ils codent le fameux UbiArt, qui est un framework qu'ils ont présenté à la conf. Et qui permet, sur lequel est développé entre autres Rayman Origins, et qui vont a priori mettre à disposition d'autres développeurs quand il sera fini, c'est-à-dire un certain nombre d'outils qui permet de faire des jeux en 2D à partir d'œuvres 2D comme celle de
Une démarche Rayman. Très noble, il a l'air de vouloir en fait revenir un peu aux sources du développement de jeux vidéo et de permettre aux gens de pouvoir faire comme lui. Enfin, j'aime bien démarche.
Le il, c'est Michel Ancel.
Oui, Michel Ancel. Ouais.
Et c'est une tendance finalement assez générale. Quoi. Il y a eu WarioWare, il y a Little Big Planet 2 dont on va reparler très bientôt, il y a ça, il y a plein de choses, etc., qui témoignent d'une volonté de trouver des outils pour pouvoir développer des jeux à pas 30 millions de personnes et de les donner
et d'avoir un résultat superbe, parce que là aussi c'est, ça nous a bluffé visuellement.
Ouais, visuellement c'est une claque clairement. En tout cas ça montre que la plateforme est pas morte et la 2D non plus.
Je trouve que les animations font un peu flash, il y a un petit effet comme ça de zone, comme les animations qu'on voit en flash sur le web, mais en dehors de ça c'est vrai que visuellement tu peux faire n'importe quoi. Il y a pas que Rayman Origins, ils ont montré d'autres choses à la
Le boss gigantesque dont on parle, Julo, là.
Et le bosso.
Les bras roses, là, comme ça, qui prennent tout l'écran, l'écran qui dézoome et tout, c'est super. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? S'il vous plaît.
Sur moult micros différents. Non, mais moi, je retrouve en tout cas vraiment. C'est un O3 qui marque un peu le retour et de la plateforme et de la 2D. C'est très bon signe, en tout cas.
Du jeu de guerre aussi.
Et mais ça, il n'était pas parti.
C'est pas un retour, ça. Ouais, voilà.
Voilà, donc effectivement, coup de cœur sur Rayman Origins. On va passer très vite sur un jeu dont on ne sait pas grand chose pour l'instant. Il est prévu pour début 2011. Il s'agit de Heroes on The Move,
the
et c'est quelque
move.
Part l'une des premières fois où Sony commence à faire du Nintendo en reprenant ses grandes stars. Hein.
Après des années et des années de jeux Nintendo avec plein de personnages de la marque mélangés, et bah, Sony fait la même chose avec ses héros. Donc il y aura Sly, il y aura Sly Raccoon,
Jack,
Sly Cooper
Dexter,
chez nous, ou l'inverse, je sais pas. C'est Sly Raccoon chez nous et Cooper aux États-Unis.
Oui,
moi, Jack, Dexter, Ratchet, Clank,
Bentley,
la tortue de Sly. Et on en oublie un, je crois. Je me souviens plus. Enfin bref, donc un jeu qui a priori sera orienté plutôt plateforme action. Avec tous ces personnages mélangés, c'est développé par Nihilistic Software. Voilà, on n'en sait pas forcément plus pour l'instant, mais ce sera certainement très varié, je pense.
Mais honnêtement, ça a quand même clairement pas le charisme des stars Nintendo, je trouve.
Bah ouais, mais bon, si s'ils étaient mis au même moment, peut-être que ça aurait marché. Mais bon, on verra bien.
Ah, si le 25 euros, ça va. Hein.
À suivre. Allez, on arrive à notre segment dédié aux jeux de course. Et là, franchement, alléluia. Enfin, une date est-elle ferme? Est-elle fixe?
Nous est-elle savons pas.
Car pour l'instant, elle n'est que pour les États-Unis, hein, le 2 novembre.
Ouais, 2 novembre aux États-Unis.
Grand Turismo 5! Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Ah, Effectivement, le 2 novembre pour Grand Turismo 5 aux États-Unis. Bon, je pense que ça va être dans la foulée chez nous, peut-être.
Le 5?
Le 5, le 6, le 7, le 10, le 15 du même mois. Bon, en tout cas, le jeu est toujours aussi bluffant. Enfin, moi, je sais que j'ai personnellement joué au Mans. C'est une version spéciale Le Mans, donc moi j'ai adoré, hein, framerate excellent.
Alors ils annoncent du 1080p 60 images.
Oui, alors ça moi à l'œil nu je pourrais pas te dire, mais effectivement c'est ce qu'ils disent.
Deux ans. T'es pas bionique, je suis désolé.
Il y a que Raon qui sait compter les frames.
Mais moi j'en rappelle mal. Mais... c'est très fluide. Est-ce que t'as...
Moi je trouve ça ultra fluide, vraiment. Et en plus évidemment c'est toujours aussi beau, c'est bien plus beau que les autres versions. Déjà la version GT Academy, j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide et beaucoup plus haut. D'autres disaient non, mais moi j'avais quand même beaucoup joué à la version prologue et franchement j'ai vu une sacrée différence. Donc là je pense qu'ils ont mis la barre encore vraiment plus haut et ça s'annonce à mon avis extraordinaire quoi. Il y a des milliards de trucs
3D,
en plus.
3D.
Mimique.
3D,
bien sûr.
Oui, il est en 3D. Ouais,
j'avais un doute.
Mais avec plein de
compatible
petites...
de 3D.
Compatible 3D, mais aussi compatible avec le PlayStation Eye.
Exactement.
Qui permet en fait, même si vous n'avez pas la 3D ou quoi que ce soit, si vous bougez la tête,
le head
vous êtes
tracking.
En mode cockpit.
Exactement.
De pouvoir voir comme ça à l'intérieur de son cockpit. Je trouve ça assez classe.
Ouais, c'est classe.
Il y a 70 circuits, il y a plus de 1000 véhicules.
Ouais.
possible. Il y a les courses de jour et de nuit avec changement de transition au fur et à mesure.
La météo.
Les dégâts sur certaines voitures premium. Non, mais c'est comme ça qu'ils les appellent.
Tout à fait.
Les circuits sont gigantesques. Il y a vraiment beaucoup de circuits aussi qui sont en point A, point B. C'est-à-dire, on fait pas juste des boucles. Et du coup, là, il y a une vraie variété de décors. C'est vrai que c'est assez bluffant. Moi, je mettrais peut-être un tout petit bémol quand même. C'est que les replays et tout sont incroyable. Et quand on regarde les voitures, le détail, on peut ouvrir le capot, voir tout, hein, les durites.
Ils ont tout designé.
C'est incroyable. En course, quand on n'est pas en vue cockpit, parfois, je trouve ça un peu vide. Enfin, un effet un peu étrange. Mais je suis pas un spécialiste de course.
Mais c'est toujours été comme ça, les Gran Turismo. Hein, de toute façon, quand dès que t'es en vue extérieure, bon, c'est pas. Faut pas jouer en vue extérieure à Gran Turismo, franchement. Déjà, faut jouer avec un volant de préférence, mais. Et en plus, faut jouer effectivement en vue intérieure. Surtout que là, ils vont être quasiment tous designés à la perfection, les cockpits, donc ça vaudra le coup de jouer vraiment à l'intérieur. Et je pense que ça va cartonner sa race.
Allez, on y croit, de novembre prochain. On va voir si. On rappelle, le jeu a coûté quand même plus de 82 millions de dollars au final. Vont-ils rentrer dans les frais ? Y aura-t-il une sortie de route de Gran Turismo ? Eh bien, c'est ce que nous saurons dans quelques mois maintenant. Allez, autre jeu et un petit peu événement, Need for Speed, Hot Pursuit, avec le retour de Criterion. Enfin, le retour. Ils se mettent à Need for Speed.
Need for Speed, le premier Need for Speed pour Criterion, qui a développé donc les Burnout, pour rappel. Et surtout, un retour aux sources de la série.
Avec des vraies poursuites, comme l'indique le titre.
Voilà, comme l'indique le titre, des poursuites avec les flics. Non, mais ça paraît bête, mais c'est vrai que la série faisait un peu tout et n'importe quoi ces dernières années.
Je suis assez d'accord.
Il y a eu le tuning, les courses-circuits avec Shift, qui était pas mal, hein, mais qui n'avait rien à voir avec un Need for Speed. Donc là, vraiment, ils reviennent à ce qu'a fait toute l'histoire de la saga. Les courses-poursuites avec les flics. Cette fois, on pourra incarner les flics en multi. C'est beau, c'est a priori. Alors, vous avez trouvé ça lent, vous, dans la démo, mais dans la démo qu'ils ont fait pendant la conférence, je sais pas si vous avez remarqué, mais les deux mecs s'attendaient l'un l'autre pour montrer comment ils
arrivaient pas à se taper dessus.
Exactement.
Mais moi, j'avais la possibilité d'y jouer directement.
Et alors, t'as trouvé ça lent quand même ?
En versus, c'est quand même relativement lent. C'était plus rapide que ce qu'on a vu clairement, mais c'est quand même relativement lent. Les voitures sont très grosses à l'écran, c'est vraiment très, très, très étalé sur la piste. C'est
ça assez,
vachement assez
burn-out,
lent.
La vue, en fait.
Oui, effectivement. Mais voilà, mais sinon, il y avait quand même des bonnes sensations et le jeu du chat et de la souris fonctionne très très
c'est
bien.
C'est génial, surtout que t'es en ville, tu sors, t'es dans la forêt, machin. Et c'est vraiment l'esprit Need for Speed.
Mais
c'est
la vitesse, j'ai vu d'autres jeux beaucoup plus rapides.
La vitesse s'est dépassée, comme dirait l'autre.
Bravo. Alors justement, Traz, est-ce le cas de MotorStorm 3 Apocalypse ?
Exactement, MotorStorm Apocalypse.
Tu as pu vous découvrir en 3D.
Bah moi, j'ai pas joué en 3D, malheureusement, sur la version que j'ai pu tester en Angleterre. Il y a quelques semaines. De quoi ? Mimic ?
Alors 3D ou pas ?
Bah visiblement oui.
Ah oui. Bah, oui. Plutôt pas mal.
Je suis pas à la 3D, alors je voudrais qu'on m'explique.
Mais effectivement, c'est vraiment c'est de l'arcane, hein. On connaît les deux premiers épisodes. Sauf que là, c'est dans une
ville.
J'allais dire dans une jungle urbaine. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Donc tout s'écroule partout. C'est nord-ouest, situé au nord-ouest des États-Unis. Donc il y a eu des tremblements de terre, des cyclones, des guérillas urbaines. Enfin bon, c'est tout un bazar, un bordel absolu. Donc effectivement,
c'est un jeu de voiture post-apocalyptique.
Voilà, c'est exactement ça. Bah, d'où le titre, hein. Voilà, c'est la tendance. Donc,
mais par rapport aux split secondes,
justement, ils ont mis quelques petits trucs de gameplay qui ressemblent pas mal à split secondes. Sauf que dans split secondes, tu pouvais déclencher toi-même les explosions ou l'arrivée d'une grue sur les autres voitures au moment où tu voulais. Donc même si c'était scripté, c'est toi qui le faisais. Donc après la séquence se déclenchait. Et là par contre, tout est automatique. En fait, tu fais pas grand chose à part zoomer sur justement des immeubles qui s'écroulent ou zoomer sur une voiture qui te passe comme ça en gros plan devant toi. Mais sinon, ça reste effectivement super arcade. Ça va très très vite. La version qu'on a vue, elle était encore pré-alpha. Hein, c'est ce qu'il disait et c'est ce qu'il avait écrit sur le truc. Mais déjà, c'était plutôt pas mal. Il y avait de bonnes sensations. J'attends un petit peu qu'il soit un petit peu plus beau quand même.
Ça a l'air moins ouvert que les deux autres. Un peu plus fluide quand même. C'est les deux autres, c'était vraiment comme c'était.
J'ai cette impression là aussi.
Extérieur. Bon, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs routes. Il y avait trois chemins. T'as pas l'impression que c'est un grand truc.
C'est pas ultra ouvert, non, c'est vrai. Effectivement, Mod Nation Racer, j'ai l'impression déjà que c'était beaucoup plus ouvert et les deux premiers épisodes aussi. Mais bon.
Et bien, si justement vous aimez les jeux de course ouverts. Et bien que dire du nouveau driver San Francisco qui revient, le retour de Tanner avec un mode complètement inédit.
Oui.
Le mode Shift. De quoi s'agit-il,
Tazam. Alors le mode shift, comme son nom ne l'indique pas du tout. Si si, ça l'indique en fait. C'est que tu peux
shifter.
Voilà, exactement. Tu peux en vue en vue du dessus. À un moment donné, tu te mets en vue du dessus en appuyant sur un bouton. Tu peux passer d'une voiture à l'autre. Donc c'est très
instantanément,
bizarre.
Instantanément.
Voilà, c'est très bizarre, mais effectivement, c'est une fonction dans le jeu.
C'est quoi
ça? C'est que quand on joue en multi, eh bien, ça nous permet de faire un bond, pas dans le temps, mais dans l'espace, en fait, et d'essayer de grappiller comme ça des positions par rapport à la voiture qu'on est en train de suivre. Oui.
Voilà. Moi, en voyant ça, je me suis dit, bon, bah, c'est rigolo comme idée, etc., mais est-ce que ça va pas tout fausser? C'est-à-dire que si tu peux choisir ta voiture tout le temps, bah, tu te mets toujours au meilleur endroit.
Non, parce qu'en fait, c'est lui qui le fait le premier qui grappille justement cette position. En multi, on avait essayé à 8, je crois, ou à 6. Enfin, on était à 6,
c'est pas illimité en plus comme capacité, tu peux pas le faire autant
que tu veux. Si, tu le fais autant que tu veux. En tout cas, en multi, c'est ce qu'il y avait, et c'est pareil en solo. Tu le fais autant de fois que tu veux. Donc effectivement, d'après le scénario, c'est que John Tanner, il a eu un gros accident au début,
c'est vrai.
Du jeu. Donc il est dans un coma, et c'est cet état comateux en fait qui lui fait faire ce genre de...
C'est comme un rêve, quoi.
Voilà, de bon en avant, etc. Bon, après, on a vu qu'un niveau...
L'explication fumeuse.
Voilà, c'est un peu particulier, il faudrait voir tout le truc en entier pour vraiment comprendre ce qui se passe exactement, mais c'est vrai que c'est un peu particulier pour un jeu de voiture.
Dans les embouteillages, tu fais le jeu de chat et la souris, mais en fait tu ne pilotes pas, en fait tu passes une voiture à l'autre, c'est impossible. Possible, en fait.
Bah oui, c'est ça. Non, en multi c'est quand même assez stratégique, hein, et bon. c'est plutôt pas mal fait, mais bon.
Et en tout cas, effectivement, on n'a pas été bluffé techniquement, c'est pas mal, hein, mais c'est pas bluffé. En revanche, effectivement, dès que ça dézoome et qu'on voit l'intégralité de San Francisco, ouais, et ses alentours,
quasiment l'intégralité.
Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont gérées en simultané.
Tout à fait.
On pourra noter quand même que globalement, par rapport aux précédentes années, beaucoup moins de jeux automobiles.
Ouais, c'est ce que je regardais, la liste est faible.
C'est le FPS à cartonner. On sent vraiment quand même l'industrie du jeu vidéo qui suit les tendances, hein. C'est oh les FPS cartonne, oh,
guerre
oh les jeux de bagnole. Je pense que là, dans deux ans, si Gran Turismo marche bien, on va se taper que 50 000 clones de Gran Turismo.
On a oublié le jeu Kinect là
de
Joyride.
Ouais, merci, bah, ouais, on l'a oublié. Et donc nous allons passer à la baston. Alors baston, genre il y avait cartonné dans les années 90, hein, et qui aujourd'hui est un petit peu plus famélique. Néanmoins, Marvel versus Capcom 3, t'as mis
c'est pas en 3D.
Une claque.
C'est en 3D ou pas?
Non, ça allait
pas. Qu'est-ce que t'en as pensé? tu voulais rassurer les gens?
Ah, effectivement, j'ai voulu faire un Galaxy TV là-dessus, mais finalement, on l'a pas passé. En gros, bah, c'est que oui, les images, bah, ça donne pas. Ça
rend
pas du tout honneur au jeu, voilà, ça rend pas les coups non plus. Là, pour le coup, le voir bouger, c'est vraiment très impressionnant. Il y a énormément d'animation. Enfin, on retrouve tout le charme qu'on avait sur un Marvel Capcom 2, mais puissance 10, quoi. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils veulent pas spécialement changer la recette du 2. Ils veulent conserver tout ça pour l'implémenter dans le 3. Et ce à quoi on a pu jouer là, en fait, n'est pas du tout définitif. Donc il y a énormément de changements. Le truc qui est sympa, c'est que par exemple, pour un personnage comme Dante, on a pu remarquer qu'ils font tout pour coller au personnage, et donc tous ses coups sont en rapport avec ce qu'il fait dans le jeu original.
On ça, peut citer quelques-uns des guests qui arrivent donc, dans cette édition.
Dante, Deadpool. Deadpool, tu connais pas Deadpool,
Deadpool
non. Dans je peux faire l'historique, on n'a pas le temps, tu te rappelles. D'accord, on est serré. C'est un mec en rouge qui fait du moonwalk dans le jeu, tu verras. Okay. Très sympa.
donc, je demanderai à Julo,
c'est Michael, mais avec une cagoule. Bref. Donc voilà, on a Wolverine, on a Hulk, on a Captain America, on a.
Chris Redfield.
Oui, tout à fait.
Jill Valentine.
Iron Man. Non. Iron Man. On a la nana de Darkstalker, Félicia.
Non, c'est pas Félicia. Ça, c'est celle qui est en chat.
Je crois que c'est Félicia.
Morgane.
Ah, c'est ça. Donc, ouais, Morgane et Félicia. Ouais. Les deux.
Félicia
sont là.
Aussi. Okay.
Morgane, on l'aime beaucoup. Voilà, Ryu. Et c'est tout, en fait, parce qu'il n'y en avait pas énormément. Mais
de ce qu'ils ont montré. Mais...
Il y a entre 20 et 30, un truc dans ce goût-là. Donc, ça va quand même être assez costaud.
Ok.
Voilà. Et on a déjà quelques idées qui sont distillées par Tiger régulièrement pour les prochains persos.
C'est gros. Parfait. Et est-ce que Mortal Kombat, qui lui aussi fait son retour,
alors
se
lui,
montre
c'était
aussi captivant?
Alors même, j'ai même envie de dire, j'étais encore plus impressionné que ce Marvel vs. Capcom 3. Non pas que les deux jeux soient comparables, c'est encore des choses différentes, mais c'est vraiment le retour énorme de Mortal Kombat, dans le sens où ils piquent des idées partout, on va pas se mentir, c'est que du volet. Donc ils refont un truc à la Street, c'est en 3D, mais sur un plan 2D. Ils ont, en gros, il y a des couillex, donc ça me rappellera des choses pour Street 4.
Alors des couillex, si tu le dis très vite, c'est ce que ça donne, hein, des couillex.
Des couillex, alors bon. Non, en fait, donc c'est un coup normal qui en fait, on craque une barre de un petit bout de sa barre d'énergie de furie, pardon, et ça va faire le même coup mais en plus puissant, voilà.
Donc EX en fait, un coup EX.
Et ça a l'air extraordinairement violent en gore, et
alors voilà,
à la limite du soutenable quand même.
Alors, effectivement, et d'ailleurs c'est ce qu'ils faisaient grimper au rideau nos amis américains.
Oh my god, ils sont amazing.
Voilà, c'est que donc bon, Il y a un autre truc vraiment sympa, c'est le X-ray move, qui est très impressionnant aussi. Donc en fait, quand tu, c'est la furie en fait. Donc quand tu frappes un gars, en fait, tu vas voir son, la caméra va s'arrêter près de son plexus. Par exemple, si tu frappes sur le plexus, et ça va, tu vas voir son plexus se fendiller, tout le squelette se fendiller, etc. Ça, les Américains, on... non, je vais pas le dire, mais bref, il y en a des gens qui ont vraiment aimé ça. Ouais. Donc voilà. Et sinon, bah, les fatalities. Alors le retour des fatalities, mais il y a vraiment des trucs dégueulasses. Vraiment, voilà. Mais ça avait l'air d'avoir.
Il y a des babalities, voilà. Ou pas.
Et donc il y a un aspect vraiment réaliste dans les graphismes. donc là, on est vraiment.
Babalities.
Ça a l'air très bien, ça a l'air très gore, ça a l'air très Mortal Kombat.
C'est très américain, ouais, ils vont rentrer là-bas.
Allez, on va passer au sport très rapidement avec Mario Sport Mix qui a été annoncé sur Wii pour 2011 avec du volley, du hockey, du basket.
De la balle aux prisonniers.
De la balle aux prisonniers.
Du dodgeball.
Du dodgeball, ouais, très célèbre aux États-Unis, le dodgeball. Bon, ça a l'air sympathique et tout. Bon, enfin bon, on va passer très rapidement dessus.
3D ou
pas? Pas 3D, non.
4D.
L'occasion aussi à l'E3 de découvrir pour la première fois pour nous PES 2011 en jouable et d'y jouer. Et
qui,
franchement.
Qui t'a bien impressionné?
Ah bah,
en fait.
Ça n'a plus rien à voir.
C'est le renouveau, oui.
Ah ouais, c'est vraiment le renouveau, là. Ça n'a
ça
plus
y est
rien à voir.
Victoire.
Ouais, un petit peu enfin. Beaucoup de nouvelles. Plus de 90% de nouvelles animations. Même si je trouve que la course n'est pas encore parfaite, elle reste bien mieux, mais surtout, et c'est le plus important, c'est la liberté de jeu. C'est-à-dire que maintenant la balle n'est plus du tout télécommandée jusqu'au joueur, elle ne gère plus que, genre avant c'était genre fort, pas fort, moyen, et puis la direction vers un joueur, c'est tout. Maintenant vous la mettez vraiment où vous voulez, ce qui peut dire aussi n'importe où, et que, du coup il faut créer des espaces. On peut la mettre là où il n'y a pas de joueur et donc faire partir son joueur
un
dans
mec
la course
sur l'aile,
exactement, et donc être beaucoup plus créatif, entre guillemets, je le reconnais, à la FIFA.
À la FIFA, ça c'est FIFAisé complètement. Mais en même temps, s'ils arrivent à garder toute la niaque qu'il peut y avoir dans les PES et ajouter cette organisation de jeu toute nouvelle, bah, ouais, franchement,
et
c'est
niaque,
le meilleur des deux mondes.
Tu la retrouves avec en fait la jauge de puissance qui est désormais présente à tout moment
pour les passes,
pour les passes et les tirs. Alors que les gens pensaient que ça allait être que pour les tirs. Il y a aussi pour les passes, et du coup, faut vraiment doser. Vraiment, enfin, ce qui m'a fait plaisir, c'est de me dire que quand j'ai pris la manette en main, je me suis dit, oh putain, merde, je suis largué. En gros, il va falloir tout réapprendre,
comme
à la bonne époque des PES, il fallait tout réapprendre.
C'est bien ça.
Et du coup, bah, se refaire des mécanismes, des habitudes, des automatismes.
Et est-ce que l'équipe de France aura un bon niveau ou pas dans ce
jeu? J'espère pas.
D'accord.
Je pense qu'elle est
en train de revenir à sa performance de la Coupe du Monde.
Je pense qu'ils sont en train de mettre à jour là.
C'est ça. Ouais, ouais. Donc
ça
en fait, il y a des matchs où l'équipe de France ne viendra pas.
Exact.
C'est ça.
Ça se trouve, il n'y aura pas Anelka, hein, il sera exclu.
On ne sait pas. À suivre. Allez, on finit avec la série des inclassables, les jeux inclassables, avec Child of Eden, qui nous a plutôt bien plu, qui sortira en 2011 sur PS3 et Xbox 360 avec du Kinect, avec du Move.
Voilà, et puis même à la manette classique aussi, donc le successeur spirituel de Rez par Mizuguchi. Donc un jeu musical et graphique qui joue beaucoup sur la synesthésie, c'est-à-dire le mélange ou la traduction de manière visuelle de ce qu'on entend en audio. Donc avec des correspondances de couleurs, etc. On va pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais en tous les cas, pour moi, ça a fonctionné. Je trouve ça sublime graphiquement, même si c'est complètement abstrait. Et mine de rien, c'est le seul jeu que j'ai envie de jouer avec Kinect. C'est aussi bête que ça.
Voilà, donc, il y avait aussi du côté de la PlayStation 3, il y a Echo Chrome 2, enfin II, qui moi franchement est
c'est
vraiment la meilleure
moi.
Utilisation du PS Move.
Carrément. On répète donc en
le
gros,
principe.
Le principe c'est que donc dans tous les Echo Chrome, il faut faire sortir le personnage du niveau. À chaque fois, c'est des trucs un peu particuliers. Là, c'était avant sur les perspectives, et maintenant c'est sur les perspectives mais des ombres. C'est-à-dire que tu tiens dans la main comme une lampe torche le PS Move, et en changeant l'inclinaison comme ça par rapport à la caméra chez toi, ça fait changer l'ombre sur le fond du niveau. Et du coup, comme ton personnage comme ça marche, l'ombre de ton personnage marche sur l'ombre du décor, et du coup, tu peux assembler des morceaux de décor en faisant bouger comme ça le PS Move comme une lampe torche qui éclairerait le niveau. Quoi.
Parce qu'en fait, on éclaire des formes géométriques qui ont l'air de ressembler à rien.
Voilà.
Mais si on trouve le bon angle,
ça les déforme sur le fond.
Et ça
et
fait
voilà.
des chemins.
Bah, donc c'est super, en fait. Ouais. Et c'est super intelligent, et t'as vachement envie de faire joujou avec avec la lampe torche en question.
Exactement.
C'est très sympa.
Autre jeu de la PS3, Little Big Planet 2, c'est plus du tout un jeu de plateforme, c'est pour ça qu'il est dans les inclassables. C'est maintenant un grand simulateur de création de jeux, de mini-jeux.
Tu ne crées plus que des jeux de plateforme, bien que des mecs très astucieux avaient réussi à créer des shoots, etc. déjà avec le premier Little Big Planet, mais en utilisant un peu des détours intelligents, mais ça restait limité. Des petites astuces. Là, cette fois, bah, fort de cette expérience-là, je pense, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait, au lieu de proposer un générateur de niveau de plateforme, faire un générateur de jeux tout court?
court, et donc pouvoir faire exactement ce que tu veux. Donc les mécaniques sont beaucoup plus ouvertes, ce qui va vraiment permettre aux gens de se lâcher au niveau création, etc. Et c'est ça s'annonce vachement intéressant. Ils ont fait des démos de différents jeux qu'ils ont créés vite fait, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, hein. Tu peux créer un Tetris-like avec des pièces qui tombent, tu peux créer un party game où tu dois te jeter dans le vide les autres, etc. Enfin, tu peux faire exactement ce que tu veux avec des outils encore plus complexes.
Ouais. Au niveau du son, des textures, des formes, etc. C'est beaucoup plus
ouvert. Et je le répète, comme je l'avais dit dans le test à l'époque de Little Big Planet, ce qui est génial, c'est que même quand tu n'as pas forcément des grandes envies de création, tu peux déjà jouer au niveau du jeu et surtout jouer au niveau qui sont créés par les mecs qui adorent ça et qui en font tous les jours et qui font des trucs vraiment incroyables.
Ah bah sur le premier Little Big Planet, on a plus de 2 millions de niveaux créés. Ouais, je vous à peine imaginé.
Je pense que ça va marcher.
Sur Little Big Planet.
Je pense
2.
Aussi, oui.
On conclut avec deux jeux vraiment qui nous ont tapé dans l'œil. Le premier, c'est Project Dust chez Ubisoft, qui est le retour d'Eric Chahi.
Alors qui est, oui, donc pas rien à voir avec ce dont on parlait tout à l'heure.
Avec Dust de la Xbox Live.
Voilà, qui lui est un beat'em all. Project Dust, donc c'est pas un nom définitif. Nouveau jeu d'Eric Chahi. A priori, ça ressemble à un God Game en fait.
C'est comme ça qu'il le définit.
Voilà, et ça a l'air très écolo dans le thème, c'est-à-dire qu'on va essayer d'assurer la survie d'un monde et d'un peuple. En prenant aussi des ressources à certains endroits, en les mettant ailleurs, que ce soit de l'eau, etc. Et en jouant avec ces dynamiques-là, par exemple des volcans en éruption qui crachent de la lave en fusion, vont pouvoir être refroidis et solidifiés en mettant de l'eau dessus, etc. Mais après, moi, j'ai pas tout compris en fait par rapport à ce qu'il voulait vraiment faire.
Moi, j'ai parlé avec Eric Chahi et il nous disait que la musique, le rythme, le tempo aura une importance dans le jeu, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, où en fait l'espèce de petits indigènes jouent parfois du tam-tam ou ce genre de choses. Il y aura une importance de ça dans l'univers, et effectivement les strates géologiques, les strates d'avancement des humains n'auront pas la même échelle. Elle se sera plus condensée pour que justement des parties de 45 minutes puissent ramasser comme ça des millénaires de vie et avoir une dizaine de générations humaines et un bon millénaire d'évolution géologique pour justement comme ça pouvoir quand même un gameplay intéressant et riche qui nous permette de voir plusieurs choses. Mais en tout cas, clairement, visuellement, c'est plutôt impressionnant quand même. Il y a beaucoup de choses.
C'est spécial. En tous les cas, il y a une vraie direction artistique.
Il y a une vraie volonté de faire un titre un petit peu différent, et ça sortira sur les plateformes de téléchargement, hein, Xbox Live, PlayStation Network. Et pas LouisWare.
Mais ça ressemble en fait à un Populous évolué, quoi.
Exactement.
En
fait. Et dernier jeu parmi les inclassables, même si finalement c'est un peu un jeu de plateforme, mais inclassable parce que son style est vraiment particulier et parce que son esprit et ce qu'il développe est assez étrange, c'est Limbo. Et Limbo, tenez-vous bien, c'est un jeu déconseillé aux plus de 18 ans, au moins de 18 ans.
Ah, c'est ultra.
Grâce à MCM, maintenant je le sais.
C'est noir en fait.
C'est noir
pas
et
seulement
blanc.
Visuellement, mais même quand tu vois toutes les façons de crever du personnage.
Ah, on doit tuer des enfants quand même. On rappelle un peu le concept.
Et violemment. Enfin,
C'est les limbes. Donc c'est l'endroit où les enfants morts
entre le paradis et les enfers.
Exactement. Et donc en fait ce petit personnage,
c'est les enfants non baptisés qui vont là.
Ouais, exactement. Ouais. Il va devoir sortir un petit peu des limbes il va devoir donc tuer d'autres enfants perdus dans les limbes. Et donc c'est effectivement assez violent. Ça me rappelle un petit peu. C'était quoi, Wild Nine de
Wild Nine de Shiny.
Ouais.
Oh là là, vache, waouh!
Pas du tout en termes de style graphique.
Ah ouais,
en termes de ce que tu dois faire, c'est quand même tu dois torturer des enfants à certains moments.
Ah oui,
les empaler, tu dois leur faire tomber des caisses, les tuer, te servir de ça pour avancer.
Mais sauf que Wild Nine, c'était pas des enfants, poétique. C'était des aliens.
Bien
donc
sûr.
On pouvait,
je dis pas que c'est le même jeu, mais le style.
Des jeunes aliens. Ouais.
Disons que derrière un style très poétique et mignon comme on l'imaginait, finalement se cache un jeu beaucoup plus sombre et noir qu'il ne le laissait présager. Voilà.
Moi, finalement, en tous les cas, ça ne fait que le rendre plus intéressant pour moi. J'ai envie de voir comment c'est justifié, comment c'est amené, comment
moi,
c'est fait.
Moi, pas plus, mais pas moins. En tout cas,
pour
ça
la même
reste
raison que moi aussi, c'est juste pour voir comment il a géré ça. Quoi. Parce que c'est pas forcément, il y a un petit détour scénaristique intéressant, forcément.
À suivre. Allez, dernière catégorie avec un jeu, c'est Civilization 5 sur PC, 21 septembre prochain. Et on en aura fini de l'E3.
Ouais, effectivement, il y avait peut-être d'autres jeux de réflexion et de gestion et de simulation, mais celui-ci c'est une saga incontournable dans le genre, et vraiment ils ont réussi avec le cinquième épisode à apporter plein de nouvelles mécaniques, etc. Notamment, ils ont complètement changé le système de combat qui est beaucoup plus tactique maintenant, parce qu'il suffit plus d'empiler des unités sur des cases qui sont devenues hexagonales maintenant. Il y a vraiment une occupation du terrain, une gestion de l'élévation, etc. Des choses qui étaient finalement pas très présentes dans Civilization, qui est plus un jeu de gestion, de diplomatie, etc. Que de combat au tour par tour. Maintenant, ça incorpore cet aspect-là aussi. Visuellement, c'est pas extraordinaire, mais c'est un peu plus joli que les précédents. Et pour tous les amoureux de la série, c'est vraiment hyper important, quoi.
Alors bien évidemment, il y aurait d'autres titres sur lesquels on aurait pu revenir, Infamous 2, Sonic Colors et compagnie. Il y aurait aussi tous les grands absents de l'E3. Et là, je sors ma fiche car ils sont mine de rien assez nombreux, des jeux qu'on espérait voir, comme The Last Guardian. Non, il n'était pas à l'E3, il sera au TGS. Batman Arkham Asylum 2, qui avait été présenté pourtant en vidéo il y a quelques mois, il n'était pas là. Final Fantasy Versus 13, du tout, mais a priori il fera aussi ses débuts au TGS. Darksiders 2, Zoé 3, bon, ça reste de la rumeur de rumeur tout ça.
Non, Darksiders 2 c'est vrai, oui. Mais ils ont, apparemment ils continuent à travailler dessus, mais ils sont aussi maintenant sur un MMO qu'ils ont annoncé cette année, Warhammer 40 000 Online, puisque c'est le même studio, c'est Vigil Games qui fait ça.
Voilà. Pikmin Wii qui a été à demi-mot annoncé, enfin pas annoncé, mais en tout cas Miyamoto a dit pendant la table ronde qu'il travaillait dessus. Ma grande déception, l'absence de The Last Story, qui normalement en plus devait être présent, le nouveau jeu de Hironobu Sakaguchi. T'étais c'est ironique, Julo.
Non, c'était. Quel dommage qu'il soit absent.
Oui, c'est ça. Voilà. Ouais.
C'est vrai, je dis pas que des conneries.
Le RPG de la Wii qui devrait quand même vraiment tout dépoter. Et puis après, bah, l'ensemble de Rockstar, qui n'était pas là, bien sûr. GTA V, The Agent, Elle est Noire, qui désormais, bah, on ne le verra jamais, je.
Hein, dans l'espace. Possible. Mais d'ailleurs, Rockstar devait pas faire un petit événement à part, etc.
Il a été évoqué, mais sans plus de conviction que ça. D'accord. Et pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Et Max Payne 3, donc, qui n'était pas là. Néanmoins, vous l'aurez compris.
Allez, Shenmue 12.
Effectivement. Merci, putain. Sinon, j'ai failli oublier le casé.
oui, parce que rappelez-vous, dans le dernier podcast, on avait dit, enfin, le dernier, avant le 3, Suzuki. Genre, normalement, Yu Suzuki devrait être là. Eh bien, c'était donc une sale rumeur qui aura fait rêver Julo à peu près
c'est
deux
dégueulasse,
semaines.
C'est dégueulasse.
C'est pas beau ce que vous faites, messieurs. Ceux qui vivent
c'est dégueulasse. Rumeurs.
Allez, voilà, ainsi s'achève, ainsi se ferme la page de cette E3 2010. Un E3 2010 qui, pendant le... qu'on y était, parfois pouvait sembler un petit peu moins exubérant, fou que les années passées, mais finalement, avec le recul quand même, c'était un E3 très solide, très dense, avec une
riche,
qualité haute, mais effectivement, difficile dans ce genre de cas de faire émerger des titres véritablement forts, coup de poing. Mais
ou même des surprises, même juste des surprises, il y en a eu, mais pas tant que ça.
Et du coup, post-E3, en parlant avec les éditeurs, on fait toujours des petits débriefs, etc. Je pense quand même que l'année prochaine, il y aura un peu plus de surprises, parce que globalement, au final, c'est la conférence Nintendo qui est ressortie vraiment du lot, parce qu'elle n'était constituée que de surprises, même si les héros qui sont mis en scène sont des héros très connus. Et du coup, certains éditeurs ont compris quand même que mettre un peu de surprise à un E3, ça reste important. Mais attention aussi tout de même, car la Gamescom est en train de prendre énormément d'ampleur, et on le sait, la Gamescom de cette année s'annonce particulièrement riche,
colossal.
Beaucoup de jeux
colossal.
Jouables, beaucoup d'annonces ont été gardées encore sous le manteau, et même chez les constructeurs, tout simplement parce qu'en termes de chronologie dans l'année, il est beaucoup plus simple de préparer des démos ou des grosses annonces en fin d'année, donc quelques temps avant les sorties des jeux, plutôt que figer le tout en avril, parce que finalement c'est quasiment le cas pour être prêt pour l'E3, ce qui est un peu compliqué. Quoi.
Oui, et puis en plus, c'est effectivement commercialement beaucoup plus parlant pour eux de frapper à la Gamescom plutôt qu'à l'E3.
D'ailleurs, moi j'ai quelques jeux comme ça, hein, l'E3, qui étaient des démos qui étaient, j'ai pas envie de dire pitoyables, mais qui étaient limite. Quoi.
Bah, qui auraient pas dû se présenter. Quoi.
Ah, mais complètement, dont Final 14 d'ailleurs. Mais bref.
Dont
Final 14.
Final Fantasy 14, effectivement, dont on n'a pas parlé.
On le suivra d'un peu plus à la Gamescom.
On va en parler bientôt.
Très bien.
Exact.
Allez, on se quitte. À vous maintenant de réagir dans les forums pour donner les titres, les jeux qui vous ont séduit lors de cette E3 2010. Je crois que séduit, c'est le mot que j'ai le plus prononcé lors de ce podcast. Preuve quand même qu'il y avait des choses plutôt intéressantes à cette E3. Voilà, allez, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast en audio et en vidéo pour les premiums. À très bientôt. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien, surtout,
je vous vois bien.
Ciao.
Ciao.